Oh, voyez-vous ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite tête de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonjour Mathilde, comment ça va?
Ça va, et toi?
Bah oui, ça va, ça va. Et bonjour Damien, comment ça va?
Bonjour, je suis un petit peu fatigué, et toi, comment ça va?
Un indice s'est dissimulé jusqu'ici.
Mais non, je ne l'ai pas dit.
Quoi? Non, mais j'ai déjà dit que ça allait.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Est-ce qu'on s'est...
J'avais compris, attends, pardon, j'avais compris, un lundi s'est dissimulé jusqu'ici.
Un indice?
Oui.
Mais un indice est inscrit en bas de votre écran. Qui a la rêve, personne. On s'est remis, est-ce que vous êtes remis du film d'hier?
Non. Absolument pas.
Je pense que c'était le pire film que j'ai jamais vu.
On vous en reparlera plus tard, mais on peut déjà vous dire que c'était vraiment un enfer cinématographique. Ce mois-ci, c'est un épisode où je vais faire de la figuration, puisque une bonne partie de cet épisode...
est financée.
On pourrait le dire, c'est pas un placement de produit, c'est pas encore moins... financé par Wakanim, mais on va parler de 1, 2, 3, 4, 5 animés, puisque le mois d'essai de Wakanim et de Crunchyroll ont été carrément rentabilisés.
Non, mais moi j'ai payé ce mois-ci.
Moi on aussi, je me suis fait avoir. J'ai oublié d'annuler mon
De Crunchy ou de Wakanim?
De Crunchyroll.
Vous êtes des pigeons.
Non, moi je suis contente d'avoir payé, j'ai pu continuer à regarder plein de trucs.
Ah bah voilà. Une nouvelle plateforme en plus dans l'escarcelle des plateformes. On va aussi parler ce mois-ci de The Book of Boba Fett sur Disney+, de Normal People sur Salto, de Spencer sur Prime Video et de Big Bug, sur Netflix. Mais avant de commencer, on va parler des Hypito. Damien,
oui,
tu as un hypito et j'ai moi aussi un hypito et Mathilde aussi a un hypito, mais il n'est pas écrit. Alors, est-ce que Mathilde, tu veux commencer?
Oui, il n'est pas écrit parce que c'est une surprise. Oh. Non. Ce mois-ci, j'ai lu My Dear Fucking Prince de Cassie McKinston, qui s'appelle aussi comme titre, enfin qui a pour titre original Red, White and Royal Blue. Alors me demandez pas pourquoi l'humaine, la maison d'édition s'amuse à changer les titres, je ne sais pas.
Ça c'est une passion française.
Je trouvais que Red, White and Royal Blue c'était vachement cool. Pourquoi fallait que ça s'appelle My Dear Fucking Prince? Genre il fallait qu'il y ait des gros mots dedans.
Non, j'ai une vraie hypothèse.
Oui.
C'est que My Dear Fucking Prince c'est accessible au niveau franco, au niveau anglais global.
Alors Red, White and Royal Blue.
Et
les couleurs quoi. Et
bah oui,
royal,
mais...
ça va.
Bah, je sais pas. Mais
enfin,
en tout cas,
pas, rouge, blanc et bleu royal. Enfin,
tu vois, Very Bad Trip, c'est beaucoup plus compréhensible dans la tête des gens que The Hangover.
Oui, ça je suis d'accord,
mais. Pas d'accord pour
mais parce que toi t'es bilingue.
Mais The Hangover, ça va. C'est...
Bah, non, il faut savoir ce que ça veut dire.
Oui, est-ce que vous trouvez que Red, White and Royal Blue, c'est compliqué?
Oui.
Non.
Est-ce que, à quoi ça vous fait penser? À des couleurs?
Bleu, mais bas, rouge.
Pas trop.
Est-ce que My Dear Fucking Prince, ça vous dit quelque chose? Enfin, ça n'a aucun sens. Bah. Enfin bon, en gros, j'ai lu ce livre, j'ai dû le finir la semaine dernière, je crois. Et il était trop bien, ça parlait en gros d'Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis, qui tombe amoureux du prince d'Angleterre, qui s'appelle Henry, qui est le prince de Galles. Et j'ai appris dans la foulée, en fait, que les droits de ce livre avaient été achetés par Amazon Prime, il me semble. Enfin, le Prime Studio, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Amazon Studio.
Le Prime Studio.
Amazon Studio. Du coup, ça va être adapté en film, il me semble. Donc, ça risque d'être cool. Voilà, je suis contente.
Cool.
Ça serait bien que ça soit cool.
Bah, j'aimerais bien que ça soit cool parce qu'en tout cas, le livre est trop, trop bien. Après, il y a plein de blagues et plein de trucs amusants dedans. et des voix des fois un peu vulgaires, donc je sais pas comment ils vont faire ça. Mais j'espère que ça va être bien fait. Voilà, c'est mon hype ito. Et Lisa Sleeve, si vous l'avez pas lu, Kezia McKinston est une très très bonne autrice. Et c'était son premier livre qui a été traduit en France, il me semble. Ouais. Il y a One Last Stop qui va être traduit d'ici quelques semaines ou mois, je crois qu'il sort en mars ou en avril, donc voilà. Ça a l'air bien aussi. Ça parle d'une...
intelligence artificielle.
Non, ça parle d'une romance lesbienne, il me semble, celui-ci.
Oui, c'est mieux.
Ouais.
Mmh. Ok. Moi, mon épito, c'est l'annonce et les posters que Netflix a sortis pour la saison 4 de Stranger Things, qui comptera non pas... un volume, mais deux volumes.
Non, ça, c'est pas un épito, c'est un dépito.
Ça, c'est un dépito.
Oui, ils l'ont découpé.
C'est, mais alors, ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce que c'est vraiment une coupé en deux de manière assez lamentable, comme Netflix a l'habitude de faire, ou est-ce que c'est... ou est-ce que c'est, comme j'ai pu le voir par les frères scénaristes, là... Non, vraiment, ils parlent plus trop. Et qu'en fait, c'est, les gars ont dit que c'est parce qu'il y avait trop de choses à raconter et que du coup...
On va faire du Mathilde. Non mais vas-y. Mais...
Et que du coup, ben, ils ont coupé en deux, un peu comme Harry Potter, partie 1 et partie 2, tout ça. Ouais. Donc on ne sait pas le nombre d'épisodes, je crois pas. Donc du coup, peut-être que ce sera deux saisons complètes, mais liées parce que c'est la même histoire. Voilà. Mmh. On en saura plus.
Ou
le
alors,
27 mai 2022, c'est la date de sortie de volume 1.
Se passe en Russie, une partie se passe aux
États-Unis. Bah, c'est ce que je me suis demandé avec les visuels qu'ils ont sortis, parce que... le groupe a l'air d'être divisé en deux avec une partie qui serait dans un
c'est
Russie ou ailleurs.
Coupé en quatre.
C'est en Russie, hein. C'est clairement en Russie. Ils parlent russe, les mecs.
Ouais, bah voilà.
Ah bah oui, puisqu'il se fait enlever par des Russes.
Mmh.
Oui.
Donc, du coup, on voit ça sur les visuels.
Et le volume 2 sortira le 1er juillet 2022. Donc en plus, il n'y aura
c'est
pas beaucoup à attendre. Voilà.
C'est juste, je pense qu'ils ont besoin d'étaler un peu.
Bah,
ça fait du flux comme ça.
Ouais, voilà.
Oui, et puis
non,
c'est comme c'est coupé en deux, et bah, ça fait plus de. Ça sera 9 épisodes, les gars.
9 par partie.
4 et 5.
Non, tout.
Ah, c'est peu.
C'est de la merde.
Ah non, attendez.
Ah.
Non, ça sera 9 épisodes pour la première partie.
Ah, c'est c'est un peu deux saisons découpées.
Ah non, pas du tout.
En fait, ça donne des infos. Ça fait du fact-checking. Ça refact-checking direct.
Non, alors, voilà. La saison 4, partie 1, sort dans 92 jours, donc le 27 mai. Et après, les 4 autres épisodes... Attends, c'est 4 épisodes en mai. Et 5 épisodes.
Ah, bah donc c'est nul.
Ouais, et 5 épisodes en juillet. En sachant qu'il y aura 127 jours du coup à attendre encore.
Ok, bah c'est nul, voilà.
C'est 4 et 5, c'est bizarre 4 et 5.
C'est nulos.
C'est 4 d'abord.
Bah, je suis content
après.
Parce que ça revient, cool. Mais c'est nulos parce que c'est découpé, vous nous faites chier. Damien, tu as un hypito toi aussi?
Oui, c'est la saison 3 de Umbrella Academy qui sort a priori mi-2022, il n'y a pas de date plus précise que ça. Et je suis très content parce que j'aime bien Umbrella Academy.
J'ai pas vu la saison 2 encore.
J'ai bien aimé le comics. Moi, j'ai bien aimé la saison 2
aussi.
J'ai
pas trop aimé le comics. Mais...
Moi, j'aime bien tout. J'aime bien l'univers
la saison
2.
Moi, j'aimais bien le comics.
Je sais que ça sorte.
J'ai pas accroché au comics. Mais oui, il y a des posters qui sont sortis.
Ils sont beaux.
Et ben, on peut passer aux séries alors maintenant. Mathilde et moi allons commencer cette catégorie des séries avec notre marathon Newport Beach qui continue.
Oui.
On a regardé la saison 2, dispo sur Salto, qui compte 24 épisodes de 45 minutes. Donc, il y en a 3 de moins que la
Un
saison
petit peu
d'avant.
Moins, c'est bien.
Mais 24 épisodes, ça reste quand même beaucoup.
Trop.
C'était sorti en 2003. Le résumé, j'ai oublié de le noter, mais c'est toujours pareil. C'est Ryan de Chino, le petit délinquant au grand cœur, comme on pourrait l'appeler.
Le gars de Chino, comme l'appelle Seth Cohen.
Qui arrive dans une famille de riches, comment on peut dire, enfin de Newport, en fait, qui est de Orange County.
Orange
qui
County,
est la,
ouais.
Qui est, on va dire, le quartier bourge de la côte californienne. Et,
c'est en dessous de LA.
Je viens de me rendre compte qu'on a déjà fait le synopsis le mois dernier, et que je crois que c'était la saison 1, et je me disais, On l'a déjà expliqué.
Non.
Non, en fait, on,
bah,
on
suit toujours
le...
Ryan.
Et donc,
et
il y a Seth
ils sont
et Ryan.
En première cette année.
Oui.
Ils étaient en seconde. Là...
Bingo.
Ouais.
Ah non, ils sont en terminale.
Non, non, terminale, c'est la saison qu'on est en train de regarder en ce moment.
Ah oui, c'est vrai qu'on est.
Donc là, c'est dans la saison 2. Et bah, c'est toujours une série teenage des années 2000 d'une très bonne qualité. Cette saison 2 aborde des thématiques plus graves.
C'est grave. Ouais.
Avec plus de série. Mais vraiment, c'est des thématiques graves. Ça parle d'alcoolisme.
Oui, oui, l'alcoolisme.
Et le viol, surtout. Il y a une des personnages qui subit une tentative de viol. Mais, personnellement, j'y ai jamais été confronté. Mais je pense que les réactions des personnages sont assez crédibles.
Ah bon, parce que moi, des fois, ils en parlent pas pendant 3 épisodes. Et puis, d'un seul coup, elle se met à avoir des chocs post-traumatiques.
Non, mais là, c'est dans la saison 3, il y a un peu un choc post-traumatique chelou. Mais dans la saison 2. Toutes ces réactions à cette personnage suite à sa tentative de viol est plutôt me semble plutôt logique.
Mmh. Oui.
Et pour les histoires de choc post-traumatique longtemps après, visiblement,
oui,
il faut qu'il y ait un déclencheur.
Il peut y avoir
fait,
une sorte de déni
après,
aussi.
Y a rien.
Enfin bon, on en parlera ça le mois prochain du coup. Et par rapport au personnage qui devient alcoolique, pareil, je trouve que c'est pas trop mal fait.
C'est pas mal parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il le prépare même depuis la saison 1, vu qu'il nous montrait que Kristen
buvait. Elle dit comme ça, elle le balance comme ça. Mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on spoilait à chaque fois.
C'est pas grave. C'est sorti en 2003. Il y a un peu presque.
Ah, mais ouais, il y a 20 ans.
Bah,
okay.
Il y a 20 ans, il y a des gens qui n'ont pas 20 ans. Hein.
Non, mais attends, si mais on ne peut pas ans, parler de ça 20 ans plus tard, on ne va pas parler de Buffy, on ne va parler rien du tout. Là.
Mais voilà. Et
on spoil ici.
Et puis, évidemment, il y a des dramas dans cette série. Il y a beaucoup de dramas. Mais il y a aussi des moments très drôles.
Alors Ryan est incroyable dans cette
Ryan
saison. Ryan devient
un petit clown.
Ryan s'est mis à avoir de l'humour.
Non,
là
vraiment,
là.
Il a des réactions très marrantes.
Et puis... Mais c'est pas que dans ses répliques, hein, c'est visuellement aussi. Oui. Il a des tics et des mimiques. Tout son jeu d'acteur prend forme, enfin.
Ouais.
Oh là là.
Non, c'est
des ados peut-être qui
se
décompensent.
Des ados de 25
Ryan
ans.
Ryan devait avoir déjà 30 ans quand il a commencé.
Ok, attends.
Moi, j'ai préféré cette saison 2. Je trouve que de manière générale, c'est plus attachant que la saison 1.
Oui.
On va laisser la parole à Mathilde qui a regardé un animé.
Oui, j'ai regardé Oremiya. La saison 1 qui est terminée en 13 épisodes de 24 minutes. C'est sorti le 10 janvier 2021 et c'est dispo sur Wakanim. En fait, j'ai regardé cette... je vais vous dire le résumé, je vous expliquerai après pourquoi. D'un côté, il y a Ori, la lycéenne populaire à première vue, mais qui est en fait une fille très simple qui pense avant tout à sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui en réalité est un garçon chaleureux et au nombre... Quoi ?
Ça m'a fait rire derrière ses lunettes.
Oui, il se cache derrière ses lunettes et aux nombreux piercings et tatouages. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par hasard sous leur véritable jour ?
Je pense qu'ils tombent amoureux.
Et oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est dans le titre, ça s'appelle Oremiya. C'est la contraction de leurs deux noms de famille.
C'est un peu comme Brangelina.
Ouais, c'est ça, ça fonctionne comme
ça. Mais
ça
sonne mieux.
Oui.
Du coup, j'ai voulu regarder cet animé parce qu'en fait, j'ai entendu parler de cet animé vu qu'en France, les deux premiers tomes du manga se sont sortis il y a quelques semaines ou quelques mois chez Nobinomi, qui est une maison d'édition. Et du coup, je me suis dit, j'ai trop envie de les lire, mais il y avait 16 volumes. Et comme j'ai pas très envie d'acheter 16 volumes parce que je suis une radine, je me suis dit, tiens, je vais regarder la série.
C'est dit.
Ouais, c'est ça. Bah,
ça coûte moins cher.
Oui.
Je sais pas.
Bah, de quoi
5 euros d'abonnement.
J'ai regardé plein de choses.
Ouais.
Bon, j'ai regardé l'animé et c'était vraiment bien. C'est une comédie romantique pétillante, trop mignonne, c'est amusant et c'est très tendre aussi, vraiment c'est tout doux, c'est trop bien. Ça aborde le fait d'être soi-même en société, la peur des autres et le jugement. Donc en fait, comme on peut le voir dans le résumé, en fait Miyamura et même Ori sont pas du tout à l'école comme ils sont à la maison en fait. Et ils ont des personnalités très très différentes de ce qu'ils montrent aux autres. Et en fait, bah, cette série montre qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont montrer qui ils sont réellement dans la vraie vie à leurs camarades de classe et ils vont s'ouvrir et les uns aux autres et aussi ils vont tomber amoureux et c'est trop mignon. Ils sont
mignon.
Touchants et ils ont une bonne amie vraiment super gentille aussi.
On dirait plus un shoujo.
Ah oui, c'est un shoujo totalement, ouais. L'animation est simple mais attrayante et moderne. Enfin, c'est vraiment beau à regarder. et c'est cool.
C'est
alors
plus beau que la voix du tablier.
Oui, alors que le manga, j'ai quand j'ai été au magasin de manga il y a quelques semaines, j'ai pris le tome 1. Enfin, en gros, le tome 1. Le premier chapitre livre. Était offert, en fait, si j'achetais des mangas.
Hmm. Donc, le chapitre 1 du tome 1.
Voilà. C'est ça, c'est un peu les trucs qui font de promotion. Et j'ai regardé et je trouvais que les dessins n'étaient pas incroyables, alors que l'anime est vraiment trop, trop beau. Le seul problème, c'est que la série se termine en... J'ai mis 12 épisodes, mais c'est 13. En 13 épisodes, alors que les mangas en comptent 16. Du coup, je pense qu'il manque un petit bout. Un petit bout, quoi.
Donc, tu vas vouloir lire les mangas.
Du coup, je vais devoir quand même lire les mangas parce que bah, j'ai trop aimé, c'était trop mignon. Et
l'histoire sera totalement différente.
Peut-être, ouais, peut-être. Ça arrive souvent. C'est tout pour moi.
Bah non, parce que tu vas nous garder la parole, puisque tu vas nous parler de Skate Infinity.
Bah, Damien, il peut en parler.
Je l'ai vu aussi.
Ah. Damien, il peut présenter.
Oui,
allez, Damien, lance-toi.
Mais je crois que c'est Skate Z Infinity.
Skate Z.
Ouais, très chiant.
Ah bah désolé.
Bah c'est moins beau. Je préfère Skate Infinity.
D'accord. Bon en tout cas c'est aussi un animé. Il y a la saison 1 sur Wakanim et c'est la seule et unique saison parce que c'est terminé. Il y avait 12 épisodes. Mmh. Et oui c'est triste en plus parce que c'était vraiment.
Mais c'était trop long.
12 épisodes de 24 minutes et c'est sorti le 10 janvier. Ah ouais.
Je pense que j'ai copié la date de Orimia.
Ouais, il me semble que c'est sorti il y a un ou deux ans. Mais c'est assez récent quand même. Donc je vais pas dire la date parce que je vais pas réussir à la trouver.
Si c'est bien le 10 janvier 2021.
Toi,
oui.
Ça veut dire qu'ils sont sortis les deux
ah,
de la même,
oui,
au même
2021.
Moment.
Moi je suis décalé d'un an, donc oui c'est possible.
T'as l'impression qu'on est en 2021.
Oui, voilà.
Ouais, moi aussi. J'ai pas compris encore.
Je vais quand même dire le résumé. Alors l'histoire se centre sur Reki, un lycéen fan de skate qui se retrouve pris dans S, une course de skateboard sans règles dans une mine souterraine abandonnée. Langa qui
ça.
Vient revenir au Japon après un voyage au Canada. Se retrouve lui aussi embarqué dans cette course alors qu'il n'a jamais fait de skate auparavant. C'est ainsi que nous allons suivre ces deux personnes dans cette dangereuse course de skateboard.
J'aurais dû relire le résumé et
c'est
le modifier.
C'est vraiment pas Mathilde qui l'a écrit celui-là.
Dans cette course, en fait toute la série
alors,
c'est dans une course.
Non,
quoi.
C'est pas ça.
Alors déjà, reprenons. Reki est bien fan de skate, ok. Langa, il revient pas d'un voyage, il habitait au Canada en fait. Et sa mère est japonaise, et après la mort de son père,
ils
reviennent au Japon. Parce que
bah,
ça
bon.
Mais non, un voyage, ils étaient pas
c'est
en voyage,
voyage
ils vivaient au Canada
il,
quoi.
Il revient quand il a ça 16 ans quoi. Donc,
il a jamais vécu au Japon.
Voyage de 20 ans, c'est encore un voyage
non,
ou ça
c'est pas... Mais non,
ou
il habitait.
Séjour,
non, non, il est... en fait, il a la double nationalité, il est né au Canada quoi donc.
Oui, oui, donc non, il est canadien.
Non, il est canadien,
japonais,
quoi.
Voilà. Il a déménagé. Plutôt.
Voilà. Voilà. Mais du coup, ils font des courses, mais pas dans une mine.
Alors si, c'est une mine, hein, je pense.
Ouais, enfin, il y a un bout. Mais
bon, après,
bon, c'est
on
bizarre.
Peut plus dire ce qui était bien ou
bon,
pas bien.
Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien?
Je note dans le résumé, je reste. Hein. Il y a quelqu'un, il y a Langa, il fait une course de skateboard sans jamais avoir fait de skateboard.
Ouais,
oui,
c'est
impossible.
Si. Alors c'est parce qu'il est
canadien.
On fait
30
cm. C'est parce qu'il
tombe,
faisait hein. du snowboard.
Oui,
du...
mais je, alors
on, du coup il se scotche.
Je suis très bien placé dans cette situation. Je suis incapable de faire une course de skateboard.
Mais il était champion de snowboard et
oui,
l'on
oui.
faisait depuis 15 ans.
Depuis qu'il a 4 ans ou 2
J'avoue,
ans, je sais
ça,
plus.
Ça améliore les chances.
Du coup, en plus, quand il fait cette course, il se scotche les pieds sur sa
sur la première, sur la... pas surtout.
Okay.
Sur la planche pour faire comme s'il avait un snow et pas un skate.
Mais ça marche même pas.
Ah bah il les accroche avec du scotch. Hein.
Oui mais bon.
Bah franchement, après,
on va
en parler.
C'est un peu absurde.
On va en parler. Du coup, ce qui est bien dans cet animé, déjà, pour moi, c'est le générique. Il est trop cool, il est trop top. J'ai toujours envie de danser quand je l'entends. Après, un animé qui parle de skate, c'est inédit comme sujet. Enfin, moi, j'en avais jamais vu et lu. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien. L'animation est jolie et colorée, mais voilà, c'est moi j'aime bien. Mais clairement, refaites pas ce qu'ils font dans la vraie vie, quoi. Risque, risque.
Mais alors, globalement, c'est un conseil qu'on peut appliquer à peu près tous les animés.
Oui,
hein.
C'est vrai, mais là,
surtout
risque...
les shonen.
Mais là, risque de mort.
Est-ce que il y a écrit ça au début de chaque épisode?
Non, pas du tout.
Ne refaites pas ce qui est.
Non, non, il n'y a pas du tout écrit ça.
Au début de Fast and Furious, c'est ce qui est écrit.
Ouais, mais là, c'est un animé, il n'y a pas écrit
oui, mais
ça.
Fast and Furious, c'est un peu beauf.
Mais clairement, ne refaites pas, vous allez mourir, sûr, à tous les coups.
C'est même pas écrit, t'as les acteurs qui disent ne faites pas les courses. Bref, pardon.
C'est vrai.
Juste un sujet parallèle.
Un peu annexe. Sinon... parle trop d'animés, t'avais envie de parler de Fast and Furious.
Ouais, mais c'est triste. Hein.
C'est sinon... pas pensé, mais pardon.
Sinon, j'aimais bien aussi que l'histoire soit écrite comme un buzz love, en fait. Durant toute l'animé, tous les protagonistes sont des garçons, presque. Je crois qu'on voit les mamans de Reki et de Langa, mais sinon, c'est presque que des garçons.
Il n'y a aucune femme.
C'est pas
ou alors, super, c'est des femmes qui courent après Joe. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est écrit comme un buzz love. En fait, Reki et Langa sont dans une bromance vraiment trop mignonne. Du coup, bah, pour mettre ça en avant, il n'y a pas de femme dans le film.
Ouais, ça aurait clairement pu être plus qu'une bromance, je pense, dans l'idée.
Ah oui, non, c'était en mode buzz love, quoi. Ouais. En mode, ils sont amoureux, quoi.
Oui, je trouve aussi. Ouais, et puis en plus, le méchant, il est plus ou moins amoureux de Langa. En
c'est
fait.
Très. Lui, donc, par contre, il me fait grave bader. Hein.
Mais lui, il ressemble à plein de méchants qu'il y a dans des styles un peu comme ça. Des shonen avec des vieilles personnes qui aiment bien des plus jeunes. Il y en a beaucoup.
Ça fait bader.
Je sais, mais Hunter x Hunter, vraiment, c'est badant pour ça aussi.
Voilà, à toi. Qu'as-tu à dire de plus
je vais te rejoindre sur pas mal de trucs. Mais en plus, j'aime bien le sujet parce que moi, j'aime bien le skate. Enfin, je dis pas que t'aimes pas le skate.
J'aime bien le skate, c'est très léger. Bah, tu aimes plus que bien.
Bah, je le pratique.
Tu te lèves à 6h du matin pour aller en faire des 7h du matin.
Oui, mais il y a une raison. C'est... J'y suis retourné le soir, en plus. Et oui, l'animation, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le fait que ça soit méga coloré et c'était beau et simple à la fois. C'était très cool. Et ouais, le générique de début, il est trop bien. C'est au Japon, mais c'est au Japon du Sud, à Okinawa.
Ça fait un peu penser à la côte californienne.
Ouais, c'est parce que du coup, c'est vraiment mer chaude, un peu tropicale et tout, donc ça donne vraiment envie. L'espèce de petit couple, ils sont plutôt mignons. J'étais triste quand ils étaient fâchés.
Ah ouais, trop triste aussi.
Comme dans Harry Potter 4.
Voilà, pareil.
Je comprends.
Ron et Harry. C'était Ranga et Eric. Et je suis déçu que ça se soit arrêté. J'aurais bien aimé que ça continue. Il y avait de quoi faire encore, je pense. Parce qu'il y avait clairement des arcs sur des persos qui étaient super courts et ça aurait pu être allongé. Et souvent, dans les animés, il y a des épisodes un peu filaires qui sont là pour remplir. Et là, il n'y en avait pas.
Si, il y en avait un quand ils sont partis sur l'île.
Franchement, il y en a un.
Ouais.
Alors qu'il y avait de quoi en faire beaucoup plus, quoi. Et il n'était pas vraiment filaire, en plus. Il était bizarre, celui-là.
Bah, ils sont juste partis en vacances sur une île.
Oui, mais ils se font attaquer par des monstres. Et jamais
il y a des monstres.
Non, mais attends, c'est trop bizarre. Il y a vraiment des monstres surnaturels.
Je sais pas.
Et ils s'en vont parce qu'ils se sont fait attaquer et défoncer. Ils rentrent chez eux. C'est jamais élucidé.
Non, mais ça, c'est les animés, hein, des fois.
Enfin, quand même, là,
c'est genre un épisode bonus, on dirait.
Genre, on dirait qu'ils sont partis sur une fausse piste et ils se sont arrêtés.
On dirait un épisode bonus.
Non, en fait, on va pas mettre de monstres. Hein. Reviens sur la trick principale.
Bah, c'est ce qu'ils ont fait juste après.
Trop bizarre.
Et voilà, c'était vraiment cool. Regardez-le.
Ok, et bah Damien, tu vas garder la parole.
Oui, finalement, j'ai trouvé un autre animé. Je pensais n'avoir rien.
Donc on est à 6. Ah oui. là, je sais plus compter.
C'est un animé qui s'appelle, je vais dire le nom en français parce que il est long en japonais. Quand je me réincarne en slime. Et voilà. Il y avait 2 saisons, c'était sur Crunchyroll, c'est sorti en 2018. Il y avait 24 épisodes par saison de 24 minutes, ce qui nous fait un total de... Vous pouvez tricher et lire. 48 épisodes. Vous n'êtes pas très bon.
T'as dit... En fait, moi, je pensais que tu voulais qu'on calcule.
Oui.
48 fois 24.
Ah ben non, de tête.
Du coup, là, j'essayais, mais c'était dur.
Oui. Et donc, c'est l'histoire de Satoru, qui est un employé de bureau lambda qui se fait assassiner par un criminel. Alors, en plus, un mec un peu fou. En pleine rue, il se fait planter. et il se trouve...
La non-gravité du ton. Il se fait planter.
Bah, c'est un peu chill, en plus. C'est marrant. Et il se trouve réincarné dans un monde d'heroic fantasy sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Et il se retrouve équipé de 2 compétences uniques, prédateur, qui lui permettent de récupérer des aptitudes et... grand sage grâce à laquelle il acquiert une compréhension instantanée de son environnement, le rendant toujours plus intelligent. Au fil de ses rencontres, Satoru va s'allier à différents guerriers singuliers qui forgeront l'être qu'il décidera de devenir. Pour le coup, ce résumé est incroyable.
Mais il devient vraiment un slime ?
Oui.
Enfin,
il a plus
toute
forme humaine.
Et bah, il devient une petite boule. Après, il reprend forme humaine parce qu'il chope des pouvoirs. Mais je vais pas en parler pendant très longtemps parce que c'était assez anecdotique, mais c'était bien. L'animation était... Non mais c'est genre, c'était un bon truc pour manger, quoi.
Ah oui, bon, bah, ça c'est une vraie catégorie de série, ça.
Voilà, anecdotique. C'était un animé pour manger. Donc c'est un peu bateau, c'est clairement un truc de... Oh, je me retrouve dans un jeu coincé, parce qu'en fait, c'est clairement un jeu. Et c'était plutôt marrant. Et les persos sont marrants. Il y a beaucoup de male gaze, mais il y en a souvent. Et l'animation était cool. Voilà.
Ok. Et bon, on va enchaîner avec...
C'est moi qui continue.
Avec un autre animé.
On va parler de Demon Slayer, comme le mois dernier.
Je connais celui-là.
Alors, on parle de la saison 3, qui faisait que 11 épisodes.
Très décevant.
Très décevant. Vraiment, trop chelou, ce chiffre. Pourquoi pas 12 ?
C'est impair.
Bah, pourquoi pas 10 aussi, enfin,
mais non, mais toi, enfin, si t'en as 11, t'en as 12, quoi.
Bah, sérieux. Bah non.
Donc, de 24 minutes, ça a été diffusé en... Voilà. Pendant le mois de février. C'était tous les dimanches. Il y avait un épisode tous les dimanches chez Wakanim.
Et sur Crunchyroll.
Et bah, les
c'est
deux,
vrai
tu vois.
Ça, c'est marrant. Diffusion simultanée, ça arrive jamais.
Mais je crois qu'ils devaient fusionner à un moment donné. C'est de
refait
là.
La fusion. Vous l'avez pas à l'image, mais c'est impressionnant.
Du coup, c'est moi qui ai fait le résumé parce que celui-là, je pouvais pas le trouver toute seule. Après les événements du train de l'infini, Tanjiro, Inosuke, Senitsu, bon, je vais y arriver. Et Nezuko sont interpellés.
C'est toi qui l'as fait.
J'aime bien.
Interpellés, ils vont en prison. Mais il se passe quoi alors?
Ils leur demandent quelque chose. Interpellés genre, par le pilier Mathilde. Du son qui hein souhaite le
c'est,
pilier. Non,
c'est quoi un pilier de, du son? C'est mal, je vois un poteau. Hein.
C'est ça.
C'est pas un poteau.
Mais non, les piliers, ce sont les genre les pourfondeurs qui sont les plus forts. Les pourfondeurs de démons qui
en
sont
gros,
les plus
dans,
forts.
Dans l'organisation ah, oui, des pourfondeurs de démons, il y a 12 piliers. Ça.
Oui.
Et c'est les badass.
Voilà.
Ah, oui,
donc,
okay.
Ils sont interpellés par le pilier du son qui souhaite les emmener en mission avec lui dans le quartier des plaisirs. La mission consiste à retrouver ses épouses, parce qu'il en a plusieurs, qui ont disparu depuis plusieurs jours, semaines, je ne sais
pas
plus exactement.
Pas juste des épouses, c'est des samouraïs.
Oui, non, c'est
enfin,
des
ninjas.
C'est des femmes ninjas. Et il en a, oui, en fait, dans... lui, c'est un ninja et dans sa congrégation, ils ont le droit d'avoir 3 femmes. Donc, il a 3 femmes.
C'est très précis.
Oui.
Ok.
Alors,
mais les femmes, elles peuvent avoir 3 mecs.
Oui.
Ah,
non,
ah bon
je l'ai inventé.
Non, tu l'as inventé, ça. Parce qu'en plus, c'est le village qui choisit ses femmes.
C'était pour rassurer Emilia.
Ouais. Non, non, en plus, c'est le village qui choisit ses femmes. À part une qui s'est elle-même...
Je vais changer toute l'histoire.
Bah, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'était triste d'avoir qu'un épisode par semaine. Et en plus, c'est encore plus triste qu'il n'y en ait que 11. Voilà.
Ça fait que 11 semaines.
Visuellement, bah oui, visuellement la série est toujours aussi belle, genre tellement belle que quand je me suis lancé un épisode de My Hero Academia la dernière fois, je me suis dit mais My Hero Academia c'est vraiment moche.
Alors que c'est vraiment bien My Hero Academia.
Mais oui, mais visuellement
même moi,
les couleurs.
Qui a rien vu. Genre 30 secondes de l'un et 30 secondes de l'autre, j'ai trouvé My Hero. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était gris. J'ai dit mais t'as fait quelque chose à l'iPad ou à la
non,
télé, je sais plus.
J'avoue que ça t'a presque donné envie de regarder Demon Slayer.
Non.
Non, pas du tout. Mais du coup, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment ouf comment l'animation, enfin, elle est trop belle et les couleurs sont vraiment trop trop cool.
C'est vrai.
L'histoire de cet arc est intéressante, mais même si à un moment j'ai eu peur qu'il refasse un arc très similaire à celui d'avant.
Et qu'il lance des flèches.
Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression, c'est ils vont en mission. Il y a, comment ils s'appellent là, les méchants? Il y a des démons,
des démons.
Ouais, mais ils sont spéciaux. Ils ont des...
Les 6 lunes supérieures.
Voilà, c'est des lunes. Ils rencontrent une lune...
Qui trouve le nom des...
Je sais pas. Ils vont en mission, il y a une lune supérieure, ils se battent avec elle, ils sont presque en train de mourir.
Il y a un pilier qui les aide.
Il y a un pilier qui les aide, c'est la fin de la saison. Ça, en fait, je suis un peu déçue par ça, tu vois, c'est très...
C'est vrai que
ça se répète un petit peu. Sinon j'ai bien aimé qu'on voie la puissance de Nezuko. Elle est vraiment trop badass, même si bon, elle a du mal un peu à s'arrêter. Et sinon Zenitsu dort presque toute la saison. Le mec il dort vraiment.
Il est relou à animer, alors on le fait
dormir. Il dort. Non parce qu'en plus il bouge trop bien.
Il est fort que quand
il
dort.
Le mec est trop fort.
Ouais.
Mais il se réveille et il a les jambes cassées, et il comprend pas
mais
pourquoi.
Du coup, c'est un peu absurde, oui, par contre, au niveau
bah,
scénario.
Je trouve
c'est
absurde, ouais.
C'est bizarre. Il arrête pas d'être blessé et
je
il
pense
se dit
qu'il...
Oh, je vais continuer.
Non, parce qu'en
suivre.
Plus, il parle en dormant.
Oui.
Parce qu'à un moment, il parle, il a une conversation avec Tanjiro. Je pense qu'en fait, il dort, mais en fait, il devrait plus nous dire qu'il a un dédoublement de personnalité. Ça serait peut-être plus logique.
Ouais.
Plus logique aussi.
Oui, aussi, oui.
Par contre, j'ai pas trop aimé le dernier épisode. J'ai trouvé qu'il était que c'était un peu un Deus Ex Machina. Là, en fait, tout se résout, personne ne meurt, tout se résout.
Ah
moi,
oui,
j'étais
tu
contente que personne ne meure.
Oui, j'étais contente que personne ne meure, mais je trouve que c'était un peu bizarre et puis personne
mais
n'explique.
Depuis le début, elle est trop
comprend.
Forte.
Oui, mais moi, je veux. Au bout d'un moment, en fait, il y a aucune explication et je pense qu'il
mais
faut des explications.
Tu m'as même raconté que c'était un peu, enfin, clairement une imposture parce que c'est un Deus Ex Machina, mais en plus, genre, la série l'assume.
Ouais, parce que Tanjiro dit, bah, je sais pas.
Pour dire, coup, on le sait, c'est donc c'est pas grave. On s'en rend compte, donc, enfin, c'est très malhonnête.
Bah, moi, je trouve que ça passe mieux déjà.
Ouais, parce que non, c'est un de ses pouvoirs. Après, comme on comprend pas, mais on comprend rien. On comprend même pas Tanjiro. Pareil, il y a un moment, il pète trop un câble, mais il devient trop fort.
On les connaît, ses pouvoirs.
À Tanjiro?
Bah, Tanjiro, on les connaît. Nezuko, on savait qu'elle pouvait cramer des trucs.
Oui, mais c'est... Enfin, Tanjiro, on sait pas pourquoi, il... à un moment, il devient ouf de... Enfin, fort de malade mental.
Bah, si, ils ont expliqué. C'est quand il utilise le...
Le souffle du feu. Oui, oui, mais ça vient d'où? Pourquoi?
Bah, ça vient de son papa.
Oui, mais pourquoi? Qui? Comment? Enfin, moi, je veux une mythologie. Non, je veux, je veux qu'il nous explique. Non, je veux qu'il nous explique.
T'es
énervée
par le fait qu'il y ait du suspense, en fait.
Non, je suis énervée par le fait qu'il y a du suspense depuis le premier épisode et jamais aucune révélation. Alors, jamais.
Comme Naruto.
Ça fait 3 saisons.
J'ai peur de dire que ça risque de finir comme Lost.
Non.
Où il n'y aura aucune
réponse.
Je suis
pas d'accord.
Et j'ai même écrit que...
inintéressantes.
J'ai même écrit que ça manque de cliffhanger. Genre, bah oui, ça s'est arrêté. Genre, pouf. Enfin, le combat est terminé. Ils sont tous vivants. Pouf, c'est fini.
Ça manque de suite.
Enfin, c'est... Enfin, il y a même... Enfin, qu'est-ce qui te donne envie de regarder la suite?
Mais tu la regarderas.
Oui, je la regarderai. Bah,
voilà. Donc,
mais...
c'est pas besoin.
Parce que c'est très, très beau.
Ouais, mais je trouve... Voilà, c'est... Je sais pas, j'étais un peu triste, un peu déçu de cette saison. Mmh. Mais vraiment que la fin, parce que tous les moments où il y a les combats...
Dernier épisode de la saison.
Ouais, c'est ça, c'est que le dernier épisode qui était moins bien.
Ça va, sur 11.
Puis en plus, il sort de Nezuko comme si c'était un cheval, s'il te plaît.
Nous,
moi, ça m'a trop
saoulé. Boba Fett, on a eu le problème inverse.
Mais oui.
Il y a un épisode bien sur 11. Deux.
Non, mais... Voilà, et puis quand il sert de Nezuko, quand Tanjiro se sert de Nezuko comme un cheval, là,
il
je
a les jambes
dit,
cassées,
c'est ouais, enfin, c'est bon, sa sœur, c'est pas un poney.
Oh là là.
Voilà, j'ai passé mon gueulante. Respectez les femmes.
Mais c'est une gamine.
Bah, c'est pas une raison.
Ça, c'est horrible.
C'était pour la blague.
Et toi, Damien, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bon, je suis globalement d'accord avec Mathilde. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'aime encore plus Tengen, le pilier de cette saison, que Kyojuro. Et c'est aussi en grande partie parce que lui, il est pas mort.
Ah, bah, sympa. Bien sûr, on l'avait pas dit qu'il... Hein, dans l'autre épisode d'avant, on parlait du train de l'infini.
Bah, on va spoiler, c'est bon. On bah, a dit qu'on avait le droit de spoiler, mais on n'a pas le droit quand c'est moi qui spoil.
Bah, disons que c'est sorti il n'y a pas assez longtemps.
D'accord, ok. Je retire ce que j'ai dit.
Non, mais
personne n'est mort.
Tout le monde est vivant. Et oui, voilà. Bah, en fait,
mais moi aussi,
d'accord.
Je l'aime bien.
Et je suis curieux de voir quelle résolution ils vont donner au personnage de Nezuko, parce que pour le coup, on a encore moins d'infos que sur Tanjiro. On ne sait pas pourquoi elle a des pouvoirs plus que lui.
Bah, je pense que c'est parce que Masan, Mesan, enfin le démon, le gros démon, enfin le démon chef là, il lui a donné beaucoup de sang pour la transformer en démon.
Vraiment, c'est la seule explication. Parce que
bah moi, je pense que c'est ça.
600 ans, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait une fois avant?
Bah, je pense qu'en fait, il voulait se venger du père de. Pour moi, en fait, ils le disent pas, mais je pense qu'en fait, il voulait se venger du père de Tanjiro, et pour se venger, il a tué toute sa famille et il a transformé sa fille.
Méga grosse supposition. Hein.
Bah, c'est des suppositions, oui, mais moi, je le vois. Enfin, j'ai,
mais y a
je
aucun
pense
indice.
Que c'est comme ça. Non, il n'y a pas d'indice. Ça s'appelle une supposition.
Oui, oui, mais je veux dire, ok.
C'est ma supposition.
Ok.
On verra la saison 4 ce qu'ils diront. Et sinon, il faut lire les mangas.
Eh bah, ben, le message est passé.
Mais comme il n'y a pas les couleurs, c'est un peu triste.
On va passer à une autre série, un autre animé.
Ah oh oui, celui-là est incroyable.
Eh ben, je vais pas me tenter de dire le nom, sinon je vais dire un truc drôle.
C'est Toilette Bound.
Ah bah, j'aurais dit comme ça.
Bah, je pense que c'est Toilette Bound.
Ouais, mais... c'est vraiment ça. C'est les toilettes Bound. C'est quoi Bound?
Lié.
Lié.
To bind, c'est le.
Ah mais oui, c'est parce que oui, je comprends. Maintenant, je comprends. Mais en fait, c'est un esprit qui est dans des toilettes. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Ah, comme Harry Potter.
Ouais, exactement. C'est vraiment ça, en plus.
On parle beaucoup d'Harry Potter.
Du coup, c'est la saison 1. Je pense pas qu'il y aurait de suite. Je crois que c'est terminé. Ça fait 12 épisodes de 25 minutes. C'est sorti le 10 janvier 2020. C'est dispo sur Wakanim. Et ça nous raconte l'histoire suivante.
On croit que
une rumeur étrange circule. Dans le vieux bâtiment de l'école, une fille prénommée Anako se trouverait dans la troisième cabine des toilettes des filles du troisième étage. Ceux qui l'invoqueraient verraient un de leurs souhaits se réaliser. Nene Yashiro est une jeune fille fan de superstitions et d'affaires occultes. Elle aimerait bien sortir avec un camarade plus vieux pour qui elle a un faible. Elle décide alors de voir si la légende qui dit chez la légende est vraie et d'invoquer Hanako. Mais une malédiction s'abat sur elle et elle se retrouve transformée en poisson.
Ah oui, tu l'as vu venir et ça t'a fait rire avant de le dire.
Afin de retrouver son apparence, Néné passe un marché avec un jeune garçon nommé lui aussi Hanako qui est coincé aux toilettes. Elle de... Ce résumé n'a aucun sens. Elle devient son assistante et ensemble, ils résolvent les affaires mystérieuses qui frappent l'école. Ma première.
Mais par contre, est-ce qu'elle a un parapluie ?
Non, mais la première chose que j'ai dit, c'est oui, ce résumé n'est pas très clair et en fait, ça n'a aucun sens. En fait, il y a un esprit dans les toilettes et il s'avère que l'esprit s'appelle Hanako, mais que c'est pas une jeune fille, c'est un garçon en fait. C'est juste pour ça en fait. Il s'appelle Hanako. Et...
Ça m'explique vraiment.
Attends, ça s'appelle Hanako et donc Néné va lui demander un jour de tomber amoureuse du garçon pour qui elle a un faible. Et en fait, à ce moment-là, ils se font attaquer par...
Un poisson.
Par la reine des sirènes. Non, c'est pas ça.
La
c'est
reine
qu'en
des
fait...
sirènes qui
non,
a...
Non, non, c'est pas ça du tout. C'est que Néné, elle trouve un espèce de pochon où il y a des trucs dedans et bizarrement, elle gobe
quoi,
une...
un pochon.
Un sac. Un sac où il y a des trucs dedans et elle mange une arête de poisson. Et du coup, elle se retrouve...
Mais qui mange une arête? Ça se mange
je
pas.
Je pense qu'elle le fait pas exprès.
Non, elle le fait pas exprès.
Après, moi, je trouve un
et
sac
du coup,
avec
dès
du poisson dedans, je le mange pas. Hein.
Dès que... Et elle se transforme en poisson. Et pour contrer cette malédiction, elle passe un accord avec Hanako, qui est le jeune garçon. Et en fait, cet accord, c'est qu'elle devient son assistante. Et en échange de ça, elle se transforme en poisson que quand elle touche de l'eau.
D'accord. Mmh.
Non, mais en vrai, c'est très, très chelou à expliquer. Mais vraiment, c'est un très, très bon animé. Visuellement, c'est trop beau. C'est
et
plein
alors,
de
est-ce qu'elle sort avec un camarade plus vieux ?
Non. Non, ça marche pas, ça, par contre. Mais c'est un animé qui vaut vraiment le détour. Hein. Regardez-le. Visuellement, c'est trop beau. Et en plus, les dessins, c'est inédit. Il y a un espèce de crayonné vraiment particulier. C'est vraiment trop cool. Les personnages sont attachants. L'histoire est intéressante et l'ambiance est vraiment sympa. Des fois, il y a un peu des trucs horrifiques. Malheureusement, comme d'habitude, il n'y a pas de suite. Du coup, je vais devoir lire les mangas pour avoir la suite.
Mais attends, l'histoire n'est pas finie, mais la série.
Non, le manga, enfin, en gros, ça arrive souvent qu'ils fassent des adaptations animées, mais de mangas qui ne sont pas finis.
Et des fois, ils font les fins des animés et ce n'est pas celle des mangas, et le manga continue.
Et là, vraiment, le manga a l'air trop bien. Moi, j'ai vraiment trop envie de le voir. Et l'histoire a l'air trop mignonne. Parce que ce qui se passe dans le résumé, c'est que. Le garçon qu'elle appelle Hanako, en fait, c'est un esprit. Et s'il est là, c'est parce qu'il est mort, mais il a eu une mort violente. Et en fait, il a également tué son frère jumeau.
Ouais, ça fait la peine.
Et il y a vraiment une histoire super profonde et vraiment bien. Il y a aussi un personnage qui est trop marrant, c'est un exorciste qui vient au départ pour exorciser Hanako, mais finalement, il devient ami avec lui, donc il le fait pas. Enfin, non, c'est vraiment trop cool.
Je suis mitigé après ça.
Ouais, regardez, c'est bien. C'est bien, 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 bien.
Elle est un peu énervée.
Un peu. Un autre truc bien que Mathilde, tu as regardé.
Alors, je dirais pas que c'est bien, je dirais que c'est un classique.
Ben, un classique peut
mais
être
c'est
nul.
Pas vraiment le classique, là, du coup.
De quoi ?
C'est le reboot, non ?
Bah oui, mais je vais en parler, deux secondes. Ouais.
On sait même pas de quoi.
On parle de Fruit Basket.
Ah.
J'ai regardé la saison 1, la saison 2 et la saison 3, ce qui nous fait au total 63
épisodes.
J'ai regardé 63 épisodes de. Bah, après, on a l'impression que j'ai rien regardé ce mois-ci, mais Fruit Basket, c'était.
Mais
gros.
En fait, je me suis pas rendu. J'ai l'impression que t'as regardé ça en une semaine, donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas compris.
Peut-être le cas.
63 épisodes de 24 minutes, et c'est sorti en 2019 et c'est disponible sur Wakanim. Fruit Basket nous raconte l'histoire de Toru Honda, une lycéenne qui vit dans une tente après le décès de sa mère. Seulement voilà, l'endroit où elle a posé sa tente est un terrain appartenant à l'illustre famille Soma. Toru, en qui Shigure Soma voit des talents de ménagère, se retrouve habité avec Yuki Soma, un jeune homme à l'aura de prince charmant, et Kyo Soma qui voit ce dernier comme un ennemi. Mais ce que Toru ne sait pas, c'est que la famille Soma est touchée par une malédiction depuis des centaines d'années. Alors, on va remettre un peu les choses dans le contexte. Fruit Basket, c'est c'est tiré de la série de manga du même nom qui est sortie en 1999 et qui comptait 23 tomes. Et sa première adaptation animée est sortie en 2001. Elle comptait 26 épisodes et depuis, en fait, la série de manga a été rééditée chez Delcourt en 12 tomes, qui sont très très gros, c'est des gros tomes. Et une nouvelle adaptation animée a été faite en 2019, reprenant l'intégralité des mangas en 3 saisons distinctes. Du coup, je raconte ça parce que c'est important, parce que comme je disais au début, c'est un classique des shoujo. Genre, c'est vraiment une des... C'est... Si on... Enfin, les gens qui commencent à lire du shoujo, je pense que c'est une des premières séries qu'on leur donne, tu vois. Mmh. C'est vraiment... voilà, Fruit Basket, c'est...
La base.
C'est la base. Et moi, j'ai commencé à lire ça quand j'étais au collège ou au lycée, quoi. Enfin, non, au collège, je crois. Et j'avais les DVD des adaptations aussi, et ça faisait grave mal aux yeux. C'était pas ouf. L'adaptation de 2001, elle était vraiment pas incroyable. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, on va regarder celle de 2019 et voir la différence. Et vraiment, c'est beaucoup mieux animé, c'est très joli, les couleurs sont cool. Et on apprécie vachement plus les personnages quand ils sont plus beaux, quoi.
C'est un peu dur, mais
c'est très ouais. discriminant.
Mais même le manga, hein, si vous regardez le manga, je sais pas comment est l'édition de manga qui a été refaite là, là, chez Delcourt, mais la version de 99, enfin le dessin est, enfin il faut s'accrocher, je pense, mais pour lire ça aujourd'hui.
Est-ce que regarder ou lire un remake, c'est lire ou regarder le classique?
Oui.
Mais oui, parce que là, en fait, c'est la même histoire.
D'accord.
Et en fait, je pense que les volumes qui ont été...
Premier auteur, il doit être un peu en mode...
Mais bah c'est le même, c'est la même chose. L'auteur, c'est le même.
C'est vrai ?
Oui, je pense que...
Il a redessiné son...
Non, je pense qu'il n'a pas redessiné. Je pense que les rééditions papier, c'est juste les mêmes tomes d'accord. qui sont sortis en 99, mais en plus beau.
Ah, ça a été un
non,
peu...
Non, ils ont fait pareil avec Maison et Coucou.
Réancré ou rescanné, machin. Et...
Ouais, ils ont fait pareil avec Maison et Coucou. Juliette, je t'aime, je ne sais pas si vous connaissez. Bah, en gros,
Juliette,
c'était sorti... Voilà, c'est ça. C'était sorti en volume normal et maintenant ils font vraiment des gros tomes en fait. Mmh. C'est des rééditions plus intéressantes. Ils font ça pour les sagas qui marchent vraiment bien. Bon, sinon on va pas se mentir, Fruit Basket c'est pas un animé féministe, hein, vraiment pas. Toru est clairement là pour faire le ménage et s'occuper des 3 garçons qui vivent avec elle. Dont un adulte qui a genre 26 ou 28 ans et qui est écrivain, qui normalement devrait pouvoir faire sa propre nourriture. Non, Toru passe son temps à laver le linge, à faire la bouffe et à s'occuper d'eux comme si c'était leur maman.
Oui, mais elle est contente.
Oui, en plus elle est contente parce que c'est un anime de 1990, parce que ça date de 99. Non, non, en plus elle est contente, elle
mais
adore
en fait,
faire
vraiment,
ça.
J'ai cru que Damien le disait à premier degré.
Non, non.
Ça m'a très me
non,
fait
non,
peur.
Mais vraiment, elle adore faire ça et c'est un peu triste. C'est vraiment un petit peu triste. Mais à côté de ça...
Tu veux lui enlever les plaisirs de la vie, c'est ça
que... Mais non, mais en fait, je pense que quand tu regardes cet animé, c'est pas un animé de 2022, quoi.
Oui,
bah,
en même temps,
ça à l'époque. Mais c'est comme Juliette, je t'aime, c'est pas non plus très féministe. Enfin, voilà, tu sais à quoi tu t'attends. Et après, c'est aussi un animé très, 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 très long. Genre, vraiment, la longueur
épisodes.
De ouf. Des fois, ça parle de rien pendant 2 épisodes. Vraiment rien. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Rien du tout.
Mais donc, ce remake-là n'a pas. A rien.
Bah, il raconte les mangas, donc non,
oui, non mais...
Il a tout gardé.
Ah oui, d'accord. Enfin, je veux dire, ça n'a pas essayé d'enlever les moments. Problématique d'une part et où un peu long.
Bah, problématique, tout le manga est problématique.
Oui, non, mais justement, hein. Ça aurait pu dire allez, on essaye d'arranger les choses, de réécrire le truc.
Non. Mais, du coup, j'avais un peu l'impression de regarder un drama, des fois. Sauf qu'heureusement que les épisodes faisaient que 20 minutes, donc ça allait un peu plus vite, quoi. Mais non, c'était un peu frustrant à regarder au final. Malgré tout, l'histoire est très très jolie. La relation entre Kyo et Toru est vraiment très belle et très touchante. Et en gros, moi je comprends que ce manga reste un classique. L'histoire de base, en fait, c'est que la famille Soma est maudite parce que ils sont maudits dans le sens où tous les 100 ans ou à plusieurs générations d'écart, il y a des enfants qui naissent maudits et qui la malédiction consiste dans le fait que quand ils enlacent quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en l'un des 12 animaux du zodiaque.
Moi, ça va.
Et Kyo, qui est à part, Kyo est le chat. Le chat fait pas partie des animaux du zodiaque. C'est le 13e signe qui l'appelle parce qu'en fait, lors du banquet, en gros, quand la malédiction s'est créée, en gros,
il y
avait un chat qui était là, qui tenait compagnie à la divinité. Et en fait, quand le chat allait mourir, la divinité a dit on va faire un pacte trop cool, on va tous boire une espèce de potion, et comme ça, quand on mourra, bah, on pourra se retrouver dans nos vies antérieures, en fait. C'est la malédiction dit ça. Sauf que le chat, bah, ils lui ont fait boire la potion, et le chat, il dit mais moi, je voulais pas boire la potion, parce que moi, en fait, je vous aime et tout, mais. Non, je vous aime et tout, mais par contre, bah, la mort, ça fait aussi partie de la vie, en fait. Donc,
dis le gars qui a 7 vies déjà de base, tu vois.
Non, mais...
9.
9. Ouais, les chats, c'est 9.
C'est 9.
Ouais.
Je sais plus.
Les deux, c'est pour moi.
Et du coup, en fait, le chat, enfin, les autres signes du Zodiac ont vu ça comme une trahison du chat et ont décidé de l'exclure. Et du coup, le chat s'est fait d'autant plus maudire que, en fait, l'enfant qui naît avec. Qui naît avec la maladie, avec le signe du chat, est maudit parce que bah, il se transforme en chat quand une fille l'enlace. Et en plus de ça, il a de base une apparence... c'est un monstre, en fait. Il a une apparence vraiment de monstre. Et pour éviter d'avoir cette apparence, il porte tout le temps un talisman, un bracelet au bras. Et quand il enlève ce bracelet, bah, il se transforme en sa vraie apparence qui est complètement horrible. Mmh. Et du coup, l'histoire est basée sur le fait que Toru est la seule personne à l'accepter tel qu'il est, peu importe qui... Déjà, elle accepte cette malédiction du fait qu'il se transforme en chat, quoi. Elle l'enlace, c'est un peu chelou. Mais en plus de ça, elle accepte sa véritable forme et son contrée monstrueux. Et voilà. Mmh. Et elle sauve, Toru sauve tous les somas, en fait. Tous ceux qui ont des signes et qui sont maudits finissent par paraître autour d'elle et finissent par devenir sa famille, alors qu'elle a perdu sa mère dans un tragique accident de voiture, qui était sa seule famille. C'est triste.
Moi, j'ai une question. Est-ce que si ça sortait aujourd'hui, c'était nouveauté aujourd'hui, est-ce que ça serait un classique ou pas?
C'est ce que je te dis, ça sortirait pas aujourd'hui.
Donc ouais, voilà, j'ai ma réponse du coup.
Mais non, mais c'est comme, en fait, tu peux prendre tout. Enfin, il y a plein de films.
C'était vraiment une question innocente. Il n'y avait pas de.
Peut-être que ça, enfin, même la façon dont c'est dessiné, c'est pas du tout moderne, hein, mais. Mais tu peux pas en vouloir, genre le mec, enfin les personnes qui ont créé genre Maison Ikkoku, Juliette, je t'aime, c'est un classique pareil, tu vois, même plus encore. Et personne aujourd'hui dirait, non, mais ça n'existerait pas aujourd'hui.
Ouais, je comprends.
Et est-ce que ça parle de basket?
Non.
De fruits?
Non.
Moi, j'étais extrêmement déçu parce que je pensais avoir vu ça.
Je sais pas pourquoi ça s'appelle fruit basket.
C'est un panier de fruits.
Ah, mais oui, mais je crois que c'est juste le fait que Toru, elle est gentille, tu vois.
Moi, du coup, je pensais avoir vu Fruit Basket et en fait, j'avais vu Kuroko no Basket.
C'est trop bien, Kuroko no Basket.
Oui, ça n'a aucun rapport avec
ça. Non, mais ça parle de basket, par contre. Oui. Et c'est vraiment trop bien. Ça parle de deux joueurs de basket et dont un qui est petit et qui joue quand même au basket.
Et qui est très fort.
Et qui est trop fort, ouais. J'aime bien ça, c'est cool. Je vais vous laisser parler de la suite parce que là je vais me taire totalement.
Mais non,
je
t'as vu le premier
regardé.
Épisode.
Je pense que j'ai vu les deux premiers et
non,
je pense
t'en
que.
T'en as vu qu'un. T'en avais vraiment vu.
Faut mieux pas que j'en parle.
Oh bah déjà, je vais assez m'énerver dessus. On parle de The Book of Boba Fett, la saison 1 qui contient 7 épisodes de 45 minutes. Ça avait commencé le 29 décembre 2021.
Et ça s'est enfin arrêté.
Et oui, à raison du coup de 1 épisode par semaine comme d'habitude, c'est sur Disney+. Et c'est Damien et moi qui avons regardé. Le résumé, c'est que après s'être hasardé dans les bas-fonds de la galaxie, le légendaire chasseur de primes et la mercenaire Fennec Shand...
Elle s'appelle Fennec Shand.
Oui, Fennec, comme le petit animal. Reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.
Est-ce qu'on dit Jabba ou est-ce qu'on dit Jabba?
Jabba.
D'accord.
Vraiment, si tu veux être ringard, par contre, tu peux dire Jabba le forestier.
Je veux pas être ringard.
Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer?
Oh je pense qu'il vaut mieux que tu commences.
Moi, je vais commencer par une question simple. À quoi sert cette série? Parce que vraiment, on se demande. Il y a trois arcs qui composent le scénario. Le présent de Boba Fett, en gros, tout ce qui se passe après la saison post-générique de The Mandalorian. Le passé de Boba Fett, en gros, entre Star Wars 6 et The Mandalorian. Et la suite des aventures de Mando. Après la saison 2.
Sans
de
Boba
The Mando...
Fett.
Sans Boba Fett. Oui, oui.
C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu regardes 3 épisodes.
Mais je la regarderai.
Et, dommage que le présent de la série soit nul et complètement inintéressant.
Et que le passé soit encore pire.
Ah non, moi j'aime bien aimer le passé.
Ah bon, okay.
Ouais, parce que le présent, ça raconte rien. C'est d'un vide abyssal. Le problème, l'ironie du truc, c'est qu'en plus, c'est les épisodes avec Mando qui sont les plus intéressants.
Oui, c'est les mieux aussi. Même au niveau réel et tout, c'est les mieux. Hein.
C'est les mieux, ouais. Et le problème, c'est même un des meilleurs épisodes de tout ce qui concerne le Mandalorian. C'est même mieux que. Moi, je les ai trouvés mieux que la saison 1 entière.
C'est quand même bête, je trouve.
C'est vraiment très dommage.
Temuera Morrison, l'acteur qui joue Boba Fett, bah, il s'amuse, mais il galère un peu. On sent qu'il est content, mais il galère de ouf. Ouais.
Il subit vraiment. Il est très mal dans le premier épisode.
Il subit vraiment tout ce qui se passe. J'espère personnellement le voir reprendre le rôle de Rex dans une série live action. On dit que peut-être il sera dans Ahsoka, mais on n'en sait rien. Et parlons de Robert Rodriguez.
J'ai cru que t'allais dire Robert Pattinson. je me suis réveillée.
Oui, des fois, je fais des hors-sujets.
Ah, oh, zut.
Interdisons-lui d'approcher Star Wars, quand même. C'est pas possible. Il a fait les moins bons épisodes de The Mandalorian. Et les trois épisodes qu'il a fait, la réelle est catastrophique. Les scènes d'action sont horribles. C'est pour ça que Mathilde a lâché, parce que c'était affreux.
C'était encore pire celle d'après, quoi.
Non, mais je crois que c'est le pire monstre que j'ai vu là, dans le premier épisode avec les bras.
Ouais, mais t'as pas vu le pire.
Mais ça, c'était pas dans l'épisode 2, je suis presque persuadée d'en avoir vu.
Non, parce que tu te rappellerais de ce qu'il y avait dans l'épisode 2, les scooters Power Rangers.
Ah non, ça, j'ai pas vu.
Même Slow est énervé. Bon, en gros, j'ai globalement un problème avec la DA de cette série. Et. Je vais faire même j'ai réfléchi un peu en écrivant mon avis. En fait, je trouve que la série, elle est révélatrice du problème qu'a Lucasfilm avec la franchise. C'est la deuxième fois qu'on nous raconte des histoires que Lucasfilm croit qu'on veut, mais en fait, dont on s'en fiche complètement.
Bah, ça parle pour toi, parce qu'il y a plein de gens qui kiffent, il y a plein de fans de Boba Fett.
Bah, plein de gens, c'est relatif, parce que...
Non,
en fait, c'est une partie très bruyante de la communauté fan de Star Wars qui surkiffe Boba Fett.
Moi, j'ai lu... Oh, ça me rappelle une belle citation que j'ai lue.
Mais la plupart des gens qui n'ont pas lu l'univers étendu, parce que Boba Fett, avant l'univers étendu, c'était un espèce de random chasseur de primes qui meurt comme un con dans l'épisode 6.
Mais il n'est pas mort.
Mais on croit qu'il meurt. Et puis, il a 10 minutes d'apparition. Et en fait, c'est l'univers étendu qui en a fait un personnage ouf et légendaire.
J'ai toujours cette citation dans la tête.
Vas-y.
Est-ce qu'elle a un rapport ou pas?
Bon, on est à deux doigts d'avoir quelque chose à côté. Hein.
Non, c'est dans un livre que j'ai lu où il y a quelqu'un qui disait si tu peux être Han Solo si tu veux, moi je serai Boba Fett, je traverserai l'univers pour venir te chercher. Voilà, c'est une très belle citation.
C'est beau, mais c'est donner trop d'importance à Boba Fett.
Oui, oh, mais arrêtez, la citation est trop belle.
Non, mais du coup, pour revenir à ça, Lucasfilm était persuadé qu'on voulait un truc sur Boba Fett, exactement comme on a eu pour Solo, sauf que personne n'a demandé des histoires sur ces deux personnages-là. Et tellement personne n'a demandé, c'est que Favreau et Filoni, les scénaristes, n'ont absolument rien à raconter.
Mais Solo, il y avait une petite histoire quand même.
Oui, mais personne n'a demandé une origin story de Han Solo. On était très contents de le découvrir dans la cantina. On s'en foutait de savoir...
Ah, moi, j'avais pas du tout aimé ce film.
En plus, le film est pas bon. Mais surtout,
le film nous dit qu'en gros, Leila, c'était pas vraiment le grand amour de Han Solo.
Et puis en plus, on va pas faire la critique de Solo, mais Solo souffre d'un problème d'origin story, c'est que tout ce qui a construit sa légende se passe en une journée. Et aussi que voilà, on détruit un peu la romance incroyable entre Leia et Han Solo.
Ça, c'est ce que je viens de dire.
Oui, voilà, mais bon, bref. Restons sur Boba Fett. Modestement, je donnerai un conseil à Lucasfilm.
En général, quelques milliers de...
il était dans Newport Beach un peu plus.
Quoi ?
Qui était dans Newport Beach ?
Lucas.
Mais oui, on n'en a pas parlé. Mais attends, c'est la... Oui, voilà. Il y a George Lucas dans la saison 2 de Newport Beach.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, Seth Cohen se met à écrire une BD et George Lucas veut l'adapter.
Tout est lié.
Et moi, je me dis, ils font que le dire. Et non, il y a vraiment George Lucas.
Au resto et tout, avec Seth Cohen.
C'est vrai.
Mais oui.
Trop bizarre.
Incroyable.
Désolé, c'était moi qui avais besoin de dire un truc.
Mais donc, revenons à Boba Fett. Prenez exemple sur Rogue One et The Mandalorian. C'était quelque chose de complètement inédit. Personne n'avait demandé à ce qu'on raconte ça spécialement. Ça explore des genres nouveaux cinématographiquement. Ça raconte des nouvelles choses. On a tout à découvrir. C'est très bien comme ça. Voilà.
Allez Damien, maintenant à toi.
je vais encore dire que je suis d'accord.
Moi, je suis d'accord.
Les personnes avant moi ont dit. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques bons épisodes qui étaient noyés au milieu de pas mal de choses inutiles. Mais vraiment, du coup, ça... Et que j'ai pas trop envie de taper dessus parce que tu l'as beaucoup fait, en plus. Mais ça valait pas le coup de faire un spin-off.
Mais
quoi.
Non.
Il pouvait faire, je trouve, un préquel, genre deux épisodes, il les sortait. Et c'était le préquel de la suite de Mandalorian.
Ah, très bien, oui. Genre un pré-show. Ou... Ouais. Ah oui.
Et j'aurais préféré que ça passe comme ça. Quitte à même faire un épisode sur Boba Fett, mais un bien, du coup. Histoire ouais. de mutualiser les...
Mais même Boba Fett était vachement bien dans la saison 2 de The Mandalorian.
Mais par contre, j'étais en train de me demander, est-ce que c'est pas juste qu'ils sont en train de mettre en place tout un petit setup pour le prochain film qui se prendrait place dans l'univers qu'ils mettent en place, tu vois. Et là, il y a un intérêt à cette série.
Je sais pas, parce que vraiment, on n'a aucune idée des prochains films.
Ouais.
On sait vraiment pas... On sait qui les fait, mais on n'a aucune idée de quoi ça va parler.
Donc peut-être que ça peut être ça.
Ouais, peut-être.
Et j'étais déçu parce que j'aime bien Krastatan dans les comics. Il est super badass et tout. Bah, c'est imprononçable. K-2-R-S-A-N.
C'est pas Krasantan. Parce que là, t'as vraiment dit Krastatan. Hein.
J'arrivais pas. Enfin bref, là, il était très bof. Il était tout aussi mou que tous les autres monstres. C'était.
Oui, là, je le connaissais pas, mais du coup, je me suis renseigné. Krastan. Non, Krasantan.
Krasantan.
Oh, mais enfin oui, en gros, j'ai vu que oui, c'était un super personnage, mais bah là, il sert à rien.
Oui. Et je suis pas déçu de l'avoir regardé parce qu'il y avait des épisodes de The Mandalorian, mais du coup, autant regarder The Mandalorian.
Mais oui, c'est ça.
Et le pire épisode était la poursuite en scooter moche. Parce que non seulement ils sont moches, mais c'est lent, c'est mou et c'est très 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 mal fait. Voilà. Oui.
C'est horrible. Robert Rodriguez, arrêtez. Pitié. Je vous donne de l'argent pour
mais
que vous arrêtiez.
Mais en plus, dans le dernier, il y a un peu plus de mouvement avec les épisodes en scooter. Et je me suis presque dit, bon, là, ok, ça va un peu plus vite et tout. Il y a un peu plus d'envie.
La bataille finale est quand même nullissime.
Oui, mais ça va un peu plus vite.
Ça, elle est hyper mal construite, mais bon. On va passer à la suite et on va écouter la bande-annonce.
Des gens normaux.
T'as dit que tu m'aimais bien ?
Pas juste en tant qu'amis.
C'est pas un truc romantique ou quoi, on est juste amis.
Vaut mieux que tu t'en ailles. Tu sors avec quelqu'un de pas fréquentable en ce moment.
Faut dire qu'on avait 18 ans, c'était des conneries de notre âge.
Je croyais que tu voulais voir d'autres gens.
Vaut mieux que je rentre.
Je veux pas que tu t'en ailles.
C'était une bande-annonce super rapide et ça fait du bien.
Ah bah oui. Hein.
Et ça,
on n'est pas chez Netflix. Ici, hein.
Voilà, on est chez Salto. Bah Mathilde, on te laisse parler de cette série qui s'appelle Normal People.
Alors oui, ça s'appelle Normal People, c'est la saison 1 et la dernière et la seule et l'unique en fait.
Encore ? Mais pourquoi ça fait ça partout ?
Ah, c'est comme ça. Elle faisait 12 épisodes de 33 minutes, chaque épisode faisait 33 minutes. C'est sorti le 26 avril 2020, donc ça date un petit peu. Et c'est disponible sur Salto et France TV Slash gratuitement.
Ça date, mais ça vient d'arriver en France.
Oui, en France, ouais. Mais avant, c'était pas disponible sur aucune plateforme.
Oui.
Normal People, ça nous parle de la relation compliquée entre Marianne et Connell depuis leurs années de lycée dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande jusqu'à leurs études universitaires au Trinity College à Dublin. Intelligent, athlétique et populaire, Connell est troublé par Marianne, une camarade intimidante, solitaire et non moins intelligente. Les premiers émois nés à l'abri du regard suivront-ils la lumière ? Du coup, cette série s'est adaptée du roman de Sally Ronet du même nom, qui est sorti en 2018 et qui a été traduit en France en 2021. Donc c'est plus récent. Mmh. Et c'est dispo en France aux éditions de L'Olivier, si ça vous dit de le lire.
J'aime bien les éditions de L'Olivier.
Bah, moi, en tout cas, je pense que je vais le lire parce que la série était vraiment excellente. C'était une très, 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 très bonne série. C'est un gros coup de cœur. Du coup, j'ai apprécié principalement vraiment le truc qui m'a fait adorer cette série, c'est le personnage de Connell. C'est un des protagonistes masculins les mieux écrits que j'ai jamais vus à l'écran. Vraiment. C'est une personne 100% naturelle, si je peux dire, loin des stéréotypes. Et ça fait vraiment super plaisir. Pour exemple, c'est quelqu'un qui fait du sport. Donc, il est sportif. Quand il est au lycée, il est apprécié de tous. Il est super intelligent aussi. C'est pas genre le stéréotype du sportif idiot, quoi.
Débile.
Voilà. Non, non, il est super intelligent. Il fait des études littéraires. Bah, il est amoureux, il travaille, il est travailleur, Mais à côté de ça aussi, il vit des choses difficiles dans sa vie. Il y a une période où il vit un deuil, et après ce deuil, il vit une dépression. Et on le voit échanger avec une psychologue. Quand il est triste, il pleure. Enfin, vraiment, c'est loin de tous les stéréotypes de genre qu'on peut avoir. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien.
Et même sans parler de... Enfin, non, je veux dire, avec les petits bouts que j'ai vus, même physiquement, sans parler de sa beauté, il est normal. Il a un corps normal de quelqu'un comme on
ouais,
croise.
Bah, c'est un corps
banal, je devrais dire, plutôt que normal.
Bah, il est quand même un peu... il est un peu costaud, quoi, mais
ouais,
c'est
mais
un
c'est
mec,
pas un mec
c'est bodybuildé, sportif,
quoi. C'est pas le sportif avec 8 mégas abdos et des pectoraux
immenses.
Non,
c'est sûr, ouais.
C'est pas Aquaman.
Non, voilà, c'est pas Aquaman.
Du coup, l'histoire de Normal People raconte la rencontre et les erreurs qu'ils commettent dans leur relation, que ce soit lors de leur rencontre au lycée où ils cachent leur relation. C'est comme ça en fait qu'ils commencent à... En fait, ils s'apprécient. Et Connell est le fils de la femme de ménage de la mère de Marianne. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. En gros, sa mère travaille pour la famille de Marianne.
Oui.
Et du coup, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et donc, au bout d'un moment, ils s'apprécient et ils se mettent à sortir ensemble. Mais Connell a peur de la réaction des autres parce que Marianne se fait harceler à l'école parce qu'elle est la fille la plus intelligente. Et tout le monde la harcèle. Du coup, ils ne veulent pas que cette relation soit mise au grand jour. Ça va tellement loin que genre, il ne l'invite même pas au bal de lycée. Il invite quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, c'est vraiment... Elle commence sur des choses un peu négatives. Et puis, à leur seconde chance, à la fac, qui se termine également mal pour cause là de malentendus pour le coup. Je dirais que la communication et la non-communication est au cœur de cette série. En fait, souvent, ils parlent beaucoup entre eux, mais les moments où ils parlent un peu de tout et de rien, et ils oublient de parler du plus important, en fait, de ce qu'ils ressentent l'un et l'autre, et du coup, ils se retrouvent dans des malentendus. Genre, je crois qu'à la fac, ils rompent, enfin, ils se séparent à un moment donné l'été. Mais c'est pas du tout parce que l'un ou l'autre a décidé de rompre, c'est que c'est vraiment un gros malentendu parce que Connell lui dit qu'il doit rentrer chez lui pendant les vacances parce qu'il a pas l'argent de rester à Dublin. Et je sais pas pourquoi, elle croit que ça veut dire qu'il se sépare définitivement, tu vois. Et du coup, elle se met à sortir avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment des choses... c'est une mauvaise communication. Au final, c'est une histoire d'amour, mais avant tout, c'est aussi l'histoire de deux personnes qui grandissent et affrontent leurs démons. Elles s'entraident jusqu'à pouvoir voler de leurs propres ailes. Je trouve ça beau. C'est
ça
moi qui l'ai écrit.
Ça se passe à quelle époque ?
C'est moderne.
C'est contemporain.
Ouais, c'est contemporain, ouais.
Mais il y a quand même des femmes de ménage.
Bah, c'est parce que c'est une famille qui est très riche.
Ça existe.
Et c'est en Irlande. Et ouais, c'est que tu peux avoir une femme de ménage, tout le monde peut en avoir une.
T'as bien un robot aspirateur.
Bah oui, mais voilà, du coup, je me disais, des robots.
Ouais, mais c'est en gros, la famille de Marianne est très riche et ils ont une grande, grande demeure et donc ils ont une femme de ménage.
Ils peuvent pas tout
nettoyer. Bah, j'en sais rien, mais c'est comme ça. vous avez cassé ma volée en poésie, là. C'était
non, mais j'ai trouvé ça joli comme phrase. Toi qui l'as écrite ?
Ouais.
Merci. C'était joli.
Mais voilà, ça, j'ai bien aimé. Et oui, aussi, ça aborde un thème dont je n'ai pas parlé, qui est la violence, et pas spécifiquement la violence physique, mais la violence psychologique. C'est en gros, on nous apprend dans la série que le père de Marianne est frappé sa mère. Donc on le voit pas dans la série, donc je pense qu'il est mort. Et en fait, on voit au fur et à mesure en fait que son frère il est pas violent avec elle au niveau physique, mais il est violent dans sa façon d'être avec elle. Et en fait, cette violence, elle a l'impression que c'est la seule façon que les gens l'aiment en fait. Elle a l'impression que en fait, comme son frère lui dit qu'il l'apprécie en étant comme ça avec elle, elle a l'impression que c'est tout ce qu'elle mérite que ça quoi. Et du coup, ça part un peu mal pour elle, malheureusement. Mais ça finit bien. J'ai trouvé ça beau, c'est poétique. Et oui, et ça finit bien, mais ça finit pas comme dans les contes de fées. Ils finissent tous les deux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça finit pas comme ça. Et je trouve que la fin est d'autant plus belle parce qu'elle a vraiment un message très positif. Mais d'une autre façon. C'est pas obligé d'être... les gens sont pas obligés de finir... entravés ensemble pour que ça se finisse bien. Et en fait, l'histoire nous dit ça, en fait. C'est qu'ils trouvent une autre façon d'être heureux et ouais, ils se sont soutenus et grâce à l'aide je sais pas comment expliquer, à leur entraide, et bah, ils ont pu aller vers l'avenir, et c'est vachement beau. Et le petit plus, c'est la bande-son, et elle est vraiment trop trop bien, et elle est dispo sur Spotify si vous voulez l'écouter. Moi, je l'écoute de temps en temps, et elle est vraiment trop bien.
Mais il faut avoir vu la série, non ?
Bah, vous pouvez voir la série, mais sinon, vous pouvez aussi écouter la bande-son en lisant le livre. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire quand je récupérerai le livre.
Là, je l'ai sous les yeux. Je connais rien.
Mais regardez cette série. Elle est trop bien. Et il me semble qu'elle a reçu des prix, mais je ne sais plus exactement lesquels.
Ok. Eh ben merci. C'était ça avait l'air très chouette.
Et c'est pas long.
Et c'est gratuit. Tu l'as dit
et
ça.
C'est gratuit.
Parce que France TV slash.
Oui, je disais sur
gratuit.
France TV slash, c'est gratuit.
Voilà.
Et c'est diffusé sur France 5 aussi, donc ça se trouve si vous regardez les horaires.
Il y a des replays.
De diffusion.
Dimanche soir, je crois. Là, je le fais de tête. Donc c'est sans doute pas vrai. On va passer au film maintenant. Un seul film ce mois-ci. Bah oui, parce qu'on a regardé que des animés, donc forcément.
Moi, j'ai regardé un film, mais je l'ai pas mis.
Ah. Tu veux dire ce que c'est ?
C'était Harry Potter 1.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en
parler.
C'était
après avoir vu le truc un peu nul de la dernière fois, j'avais envie de regarder Harry Potter.
Et t'as regardé le moins bon des films.
Moi, j'aime bien.
Nous, on a regardé, Mathilde et moi, Spencer sur Prime Video. C'était sorti le 17 janvier 2022 et ça dure 1h57. C'est réalisé par Pablo Larraín, c'est surtout avec Kristen Stewart. Et le résumé est, en décembre 1991, le mariage entre le prince et la princesse de Galles est affaibli depuis longtemps. Malgré les rumeurs de divorce et liaisons extra-conjugales qui abondent, la paix est décrétée pour les fêtes de Noël au domaine de Sandringham. Vraiment, on peut pas moins bien le dire. Il y a à boire, à manger et à chasser. Diana connaît le jeu, mais cette année, les choses vont être très différentes. T'as rien écrit, Mathilde ?
Ben non, parce que j'allais réagir à ce que t'avais dit.
J'ai bien aimé. Voilà.
Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé.
Mathilde.
Mais non, mais voyons.
Non, j'ai bien aimé. C'est un joli film qui prend de nombreuses libertés. Mais qui présente plutôt bien l'oppression mentale que subissait Diana Spencer.
Des libertés avec l'histoire, tu veux dire ?
Oui, c'est totalement,
c'est totalement romancé.
Je croyais que j'avais noté un truc.
Après, c'est tiré de
voilà.
Fait.
Le réalisateur a avoué avoir préféré écrire une fable fictionnée, car selon lui, il était impossible de savoir qui était Diana Spencer. Voilà, c'est sa réponse au fait qu'il a écrit un truc totalement romancé.
Oui, mais il y a des faits réels. Quand je dis réels, c'est par exemple, elle souffrait réellement de bullying.
Ah oui, ça oui, oui. Mais je veux dire, ce week-end-là, ce week-end Noël, n'existe pas.
Oui, oui.
Et notamment, pour preuve, à un moment, on la voit avec... en fait, tous les costumes qu'elle porte se rapporte à des costumes que Diana Spencer a vraiment porté dans la vraie vie. Alors ça, je l'ai vu sur elle.fr.
Ouh, la source.
Vraiment.
Meilleure source.
Je donne mes sources. Ça me permet de dire que les décors et les costumes et la réalisation en général est très soignée et très jolie. Et au niveau de l'histoire, et bah, du coup... Ben voilà, on souffre en fait avec elle en la regardant, on sent que ça va pas du tout.
Mais c'est ouf parce qu'il y avait beau avoir beaucoup de monde durant les fêtes de Noël, on a vraiment l'impression que même des fois quand elle est en repas de famille, la caméra est vraiment focalisée sur elle et on ne voit qu'elle. Et c'est impressionnant, moi j'ai bien aimé la façon dont c'était filmé et on ressentait de l'oppression alors qu'elle est dans une salle avec 25 personnes quoi, au moins.
Il y a deux, trois trucs que j'ai remarqué là-dessus. Pour rebondir sur ce que tu dis, la première, c'est qu'il y a plein de personnages comme la reine, on ne les voit jamais de près. Mmh. C'est toujours des plans éloignés, comme si en fait on ne voulait pas les iconiser pour isoler, pour qu'on soit isolé avec Diana.
Peut-être que c'est plutôt on les voit de loin parce que c'est la ressenti que Diana a par rapport à eux.
Aussi,
elle
n'est
pas proche d'eux en fait.
Elle a
de la distance par rapport à cette famille dont elle n'a jamais réussi à faire partie.
Ouais. Et aussi, elle est tout le temps en retard.
Oui.
Et en fait, on ne voit jamais ce qu'elle manque. Elle loupe l'ouverture des cadeaux pendant la cérémonie de Noël. Elle loupe les repas. Et en fait, on la voit toujours arriver après. Donc en fait, on est de la même manière.
Ils sont vraiment modeux. C'était pas intéressant. Ça me fait penser. C'est bizarre comme.
Non, ça me fait penser au lapin dans Alice au pays des merveilles. Le lapin qui est toujours en retard. Il court après le temps. Il est toujours en retard.
Et elle court un peu des fois.
Ouais, c'est ça.
Mais en gros, tu vois, pareil. On pourrait. Le film aurait pu montrer la scène sans elle où tout le monde fait la gueule, tout le monde est énervé. Mais en fait, non, justement, on montre pas ça. On la montre arriver en retard ou rater quelque chose. Et du coup, bah, en fait, c'est vraiment un film qui est centré sur elle et pas sur la famille royale et ce que son comportement a pour conséquence.
Mais je pense que de toute façon, même s'il nous aurait montré ses retards, je pense que c'était de l'indifférence en fait qui aurait.
Oui, c'est ça, oui. Et aussi, il y a une sorte d'ironie dramatique un peu qui est. Bah, comme on sait, nous, le destin funeste de Diana, en fait, à la fin où tu sens qu'elle se libère mentalement. Vraiment à la dernière scène où elle prend ses fils et il y a un vrai moment de bonheur, un moment simple de bonheur avec ses fils. Mais en fait, c'est très triste de ça.
Il y a une scène similaire dans The Crow. Ouais, cette scène-là est vraiment la même. Dans la voiture avec ses fils, la musique à fond, la musique. Bah ça, peut-être qu'on... une scène vraiment similaire.
J'en sais rien, mais peut-être qu'en fait, ça se. Enfin, elle le faisait
souvent.
Elle
le faisait souvent, ouais. C'est pareil, tu vois. C'est pour ça que je dis, y a quand même des choses vraies.
Oui,
c'est
oui.
Que ça, elle le faisait souvent. Et j'ai beaucoup aimé que, par exemple, l'acteur qui joue Philippe.
Le roi ?
Ouais. Non, pas Philippe, son mari. Charles.
Ah, le prince, Charles, oui.
Qui joue Charles, donc du coup, son mari, on le voit presque pas. Parce qu'en fait, c'est pas, et je sais pas, c'est un réalisateur pourtant. Et ben, j'ai trouvé que du coup, on voyait pas le regard qu'il portait sur elle. Et j'ai trouvé ça super bien en fait, parce que c'est vraiment centré sur elle. Et il n'y a pas de mauvaises choses à ce propos-là.
C'est pour info, c'est un réalisateur qui aime raconter des films, enfin des histoires sur des femmes. Il avait fait un film sur Jackie Kennedy que j'avais vu et on a fait un autre sur une femme qui s'appelle Emma, pardon. Je sais plus qui, je connais pas ce film là mais
pas très connu je pense,
mais voilà, je sais que c'est un autre biopic sur une femme bien. Et autrement, on n'a pas parlé de Kirsten Stewart qui est vraiment bien. Enfin, elle s'efface vraiment, je trouve.
Ouais, moi j'ai bien aimé elle aussi. Je trouve qu'elle joue vraiment bien. Et est-ce qu'elle a eu un prix ou elle est en lice pour un prix?
Je
pour
sais
ce
pas.
Film
je l'ignore, je sais pas.
Je me suis demandé.
Elle boude un peu tout le temps parce que Kirsten Stewart elle joue comme ça en boudant.
Mais je suis pas sûre que. Elle boude réellement.
Non, j'en sais
rien.
Moi,
je vois plus des mimiques que. Parce que la personne qui jouait vraiment dans The Crow, la personne qui joue aussi oui. Diana dans The Crow, faisait des mimiques de ce type-là.
Mais en attendant, je critique pas et je la trouve vraiment bluffante. Enfin, je voyais Diana Spencer alors que Kristen Stewart avait juste la même coiffure. Elle n'est pas maquillée plus que ça pour lui ressembler. Donc
Je me suis demandé si elle n'avait pas perdu beaucoup de poids quand même pour jouer, parce qu'elle me semblait vraiment amaigrie, mais peut-être que je me trompe.
Peut-être qu'elle est tombée malade.
Ce serait dommage.
Oui.
Voilà, on a parlé de Spencer et on peut passer dès à présent au documentaire.
Alors, du coup, pour les documentaires, il y en a un.
Oui.
C'est le mien.
Je ne sers
plus
à rien. Tu t'es
fait couper l'herbe sous le pied.
Je ne sers à rien. Je vous laisse parler. Je m'en vais.
Mais moi, non. Je ne veux pas en parler. Hein. Je ne l'ai pas vu.
Non.
Je voulais juste savoir si les Navarro, c'était de l'appropriation culturelle. Je vais me renseigner.
C'est le nom de l'équipe de Cheer. Du coup, j'ai regardé Cheer, la saison 2, qui fait 9 épisodes. Je n'ai pas la durée, mais je crois que c'est environ 45-50 minutes. C'est sorti le 12 janvier 2022 sur Netflix. Et pour rappel, on retrouve les Navarro après avoir gagné Daytona. Nouvelle saison remplie d'imprévus, de déceptions et de coronavirus. Un peu de joie quand même.
Tu peux rappeler ce que c'est Daytona ?
Daytona, c'est une compétition de cheerleading.
D'accord. Aux US.
Oui, aux US. Et c'est une ville, en fait, Daytona.
Et ça se passe à Daytona, la finale.
La compétition se passe à Daytona.
OK.
Du coup, suite à la saison 1 de Cheer, qui est une série documentaire, bien évidemment, Netflix n'a pas pu s'empêcher de faire une suite. Ce qui rapporte, rapporte, comme je dirais.
Est-ce que là, c'est pas une balle perdue pour Wakanim, qui a fait que des... qui a fait tout arrêté. Vous n'avez pas arrêté de dire saison 1 et c'est fini.
C'est pas pareil parce que Wakanim finance pas ses animés.
C'est une blague.
C'est juste un diffuseur. Netflix a financé cette série documentaire. C'est pas vrai. La même chose.
C'est une blague.
Malheureusement pour eux, il y a eu un petit imprévu sur le calendrier, si je puis dire. Déjà, il y a eu le coronavirus. C'était un peu embêtant parce que la moitié, je crois qu'au bout du 3 ou 4e épisode, bah, ça, au bout, peut-être même du 2 ou 3e épisode, ça coupe parce que bah, pour cause de Covid, voilà quoi, c'était fini. Mais en plus de ça, il y a eu une histoire un peu problématique avec Jerry qui...
Un peu.
Voilà, une histoire problématique, même un gros conflit avec un des cheerleaders de la saison 1 qu'on voyait chez les Navarro qui s'appelait Jerry. Qui, en fait, ce qui se passe clairement, c'est qu'après cette saison 1, toute l'équipe de cheerleading de Navarro est devenue très 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 connue. Ils se sont mis à passer sur des plateaux de télé... Et Jerry, qui faisait partie de cette équipe, est presque devenu l'enfant chéri de l'Amérique. Il a même parlé avec le président...
Barack Obama.
Non.
Donald Trump.
Non.
Biden.
Avec Biden. Oui, oui. Non, il a eu... Non, il a rencontré Biden en visioconférence. Enfin, il a été sur tous les plateaux de télé et tout ça. Malheureusement,
Comment le dire ?
Ouais, je sais pas comment le dire... Bah en fait, il a été accusé et jugé pour
condamné, c'est ça ?
Ouais, enfin il a pas été condamné encore, il a été accusé en tout cas d'avoir eu des comportements je sais pas comment dire déviants envers des adolescents.
Bah c'est de la pédophilie, oui, c'est hein. Ça.
Ouais, en fait, il a voulu forcer des jeunes à avoir des rapports sexuels avec eux dans le milieu du cheer. Oui, bah, ça a vite jeté un froid, donc le documentaire s'ouvre là-dessus. Dès le début, ils nous l'annoncent, hein, ils n'ont pas mis ça dans un placard ou essayé de le cacher. Et le problème, c'est que c'était un peu que le dessus de l'iceberg. En gros, les deux jeunes gens qui ont commencé à en parler se sont fait un peu... Enfin, personne ne les a écoutés quoi, au niveau de la communauté du cheerleading. Jusqu'au moment où leur mère en avait marre qu'on les écoute pas parce que ils ont été sur des forums et tout le monde le savait et personne ne disait rien. Jusqu'au moment où elle a contacté le FBI et que le FBI, eux, ont pris au sérieux les paroles de ses enfants, en fait. Et que ils se sont rendus compte que c'était pas les seuls, quoi. Et autant, je dis pas que ces jeunes ont eu de la chance, mais en gros, il leur a rien fait. Si je peux dire, enfin, il les a harcelés, quoi, mais ils n'ont pas été victimes physiquement de lui. Mais il y a d'autres, malheureusement, d'autres enfants qui ont été, qui étaient
des. Il n'a pas été jugé, mais son...
il est en prison.
Oui. Après, aux US, c'était en prison.
Ouais, mais là, du coup, et le problème, bien évidemment, pour le Navarro, pour l'équipe, ça a été un. Enfin, personne s'en doutait, personne, rien du tout. Ça a été une véritable claque, si je peux dire. Et bien évidemment, c'est retombé un peu sur l'entraîneuse en mode...
C'est un peu sa responsabilité.
Voilà, c'est ça. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Hein. Cette personne papotait avec le président des États-Unis 3 semaines plus tôt en visio.
Oui, mais
tout le monde l'invisait sur les plateaux. Oui, et après, tout le monde... Enfin, le fait qu'il ait rencontré autant d'enfants... et de jeunes, c'est ça qui est aussi problématique. Enfin, c'était vraiment un gros scandale. Ce qui est positif, si je peux dire, dans ce documentaire, dans la suite de ce documentaire, c'est qu'ils n'ont pas essayé de cacher ça sous le tapis. Ils n'ont pas essayé, genre, ils n'en ont pas parlé pendant 3 minutes et ils ont fait genre non, on n'en parlera plus. Ils ont consacré totalement un épisode à cette thématique, à Jerry, qu'ils appellent d'ailleurs Jerry l'épisode. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont donné la parole aux victimes. Donc, on rencontre les deux garçons qui sont jumeaux en plus, qui ont été harcelés. Et c'est eux qui ont avant tout la parole, puis après, des proches, des gens de l'équipe des Navarro et tout ça. Et ils avaient, l'équipe avait demandé à, aux avocats de Jerry pour avoir une interview avec lui pour qu'on puisse entendre sa voix. Mm-hmm. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parler. Mm. Donc, on ne le voit pas du tout de l'épisode. On voit des archives de lui d'avant, mais on n'a pas son point de vue sur ce qui s'est passé. En tout cas, l'épisode se termine sur le fait qu'il est en prison, en attente de jugement, et qu'il encourt 15 à 20 ans de prison ferme.
Ok.
Donc déjà, ça commençait comme ça. C'était un peu mal barré. Après, en plus de ça, il y a eu le Covid. Le fait qu'il y a plein d'athlètes qui, à cause du Covid, n'ont pas participé à Daytona, a été annulé pendant 2 ans pour cause de Covid. Donc là, on est en 2020, il me semble. Et la plupart des athlètes de Navarro sont partis, donc c'est presque que des nouveaux, à part certains qui sont restés parce qu'ils le pouvaient. Mais j'ai apprécié voir l'évolution des deux équipes. Donc là, on voit les Navarro et Trinity College, qui sont un peu les deux équipes adversaires. C'est toujours l'une ou l'autre qui gagne Daytona. On remarque que la production n'a pas souhaité mettre trop en avant les étudiants lors de cette saison. En fait, on voyait beaucoup plus les étudiants dans la saison 1. Genre, vraiment, on les voyait dans leur vie personnelle et tout ça. Là, vraiment, Jerry, on connaissait toute sa vie. Là, ils ont voulu prendre un petit peu de recul, tu vois, en disant... On va prendre un peu de recul.
Même sans parler de se couvrir vis-à-vis de...
Mais je pense
je veux dire, d'avoir peur de créer un deuxième scandale comme ça, c'est peut-être aussi de s'être rendu compte qu'ils avaient été un peu trop loin en,
ouais, la
en,
lumière...
en mettant autant la lumière sur des jeunes, même si ça a été en façade que bénéfique parce que ça en a fait des idoles. Peut-être qu'ils se sont dit, mais on n'est pas là pour créer des idoles, on est là pour raconter l'histoire de cheerleading.
Ça leur a fait, ils sont devenus des stars. Ouais, et voilà, d'ailleurs,
je trouve ça honnête si le recul a été pris parce que les gens de Netflix ont estimé que c'était pas le but de créer des stars en fait.
Après, dans cette saison 2 aussi, ils interviewent plus de personnes. Enfin, il y a plus de monde. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de s'attarder sur certains.
Oui, c'est ça.
Ils se sont attardés sur des gens qui ont, par exemple, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ah, là quelque chose. Je ne me rappelle plus. Enfin, ils se sont attardés sur des étudiants, par exemple, qu'ils avaient déjà, dont ils avaient vraiment beaucoup parlé dans la saison 1. Mais oui, après, le problème, c'est qu'ils nous montrent aussi que tous les Navarro, par exemple, au début de la saison, ils ont du mal à s'entraîner comme il faut parce qu'ils sont tout le temps sur des plateaux de télé, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ils font du sponsoring, ils sont en train de faire des vidéos genre où ils souhaitent des anniversaires aux gens et ils gagnent de la thune comme ça. Enfin, ils sont plus vraiment... Enfin, ils font partie de l'équipe pour gagner, mais en même temps, ils sont... ils sont célèbres, donc ils se servent de cette célébrité pour avoir de l'argent, en fait, pour devenir influenceurs et tout ça. Donc ils sont vraiment en train de montrer qu'est-ce que ça a fait de gagner, qu'est-ce que ça leur a fait de devenir populaire. Et à côté de ça, Trinity College, qui est l'autre université, dès le début, l'entraîneur, il dit « Moi, ici, j'ai pas des stars. » Tu vois. Il dit « Moi, ici, je veux pas d'influenceurs. Moi, ici, je veux des gens qui ont la niaque et qui veulent gagner. Je veux pas des gens qui pensent que, parce qu'ils sont là, dans 2 semaines ou dans 1 an, ils vont devenir influenceurs, gagner leur vie sur les réseaux sociaux.
Faire danser avec les stars.
Ouais, par exemple, ça, c'était l'entraîneuse de Navarro qui a fait danse avec les stars.
Je l'ai dit en le sachant.
Ouais, ouais. Elle a
c'est pas un truc que j'ai
Elle est partie à un moment donné, pendant l'histoire de Jerry, elle était pas là parce qu'elle faisait danse avec les stars. Tu vois, elle l'a apprise quand elle était en train de sur le tournage. Enfin bon, c'était un peu compliqué cette saison. En tout cas, moi, ce que j'ai bien apprécié, parce qu'il y a un truc qui est vraiment positif, par contre, que j'ai beaucoup apprécié, c'est dans les derniers épisodes, en fait, quand ils sont vraiment à Daytona et qu'ils sont en train de faire ce qu'ils appellent leur routine, donc en fait, c'est leur show, quoi. J'ai beaucoup aimé que la façon dont c'était filmé. J'ai été super déçue dans la saison 1 qu'on avait juste une caméra au loin qui voyait ce qui se passait, mais c'était tout ce qu'il y avait. Alors que là, ils se sont vraiment impliqués sur le tournage. À Daytona, à mon avis, ils avaient vraiment mis plusieurs caméras, des caméras plus près, plus loin. Et du coup, ça rend ils ont fait un montage vraiment bien où on peut vraiment voir ce que ça donne. Et c'est super appréciable, en fait, de voir leur routine et la façon dont ils font le show. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour terminer, moi, j'étais super contente que Trinity College gagne parce que c'était c'est un peu un retour de bâton envers Navarro, tu vois. Mais leur routine était au top, leur musique était au top et ils l'ont mérité. Donc, moi, j'avais pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment intéressant après de voir les entraînements, la façon, comment c'est dur quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 dur.
Oui. Enfin, en France, on pense un peu que le cheerleading, c'est faire la pom-pom girl. Voilà, non. C'est ça, et dire je veux un A, je veux un B. Mais non, non, c'est vache. Enfin, je regarde un petit peu de très loin et ça a l'air bien et c'est de bonne qualité en tout cas.
C'est beau à regarder les figures.
On va passer au sujet du mois.
J'ai cassé l'ambiance. Hein. Ouais.
Non,
pas dû.
Non, la pédophilie, vraiment, c'est le meilleur.
Je suis vraiment désolée.
Glissade. La glissade.
Je suis vraiment désolée.
Damien ne sera plus dans les récapitos. on va parler du sujet du mois, mais t'inquiète, Mathilde, tout va bien. On va rigoler un bon coup avec Big Bug.
Bien sûr.
Et on va écouter la bande-annonce.
Tu sais, les gens, ils pensaient qu'en l'an 2000, il y aura des voitures volantes. Il aurait juste fallu attendre 45 ans de plus.
On les a créés, Yonix, pour qu'ils nous facilitent la vie.
Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Yonix n'a ni besoin de manger, ni de boire.
La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant.
Ça va, Françoise ?
Tu ne connais pas Jennifer ?
Bonjour.
Le Yonix sont là au service de la sécurité de la population.
Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose.
Nestor, ouverture porte.
Désolé, demande refusée.
Si ça se trouve, tout le monde est pris en otage.
Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Vous constaterez l'efficacité de nos services.
Qu'est-ce qui lui prend ? Ils disjonctent complètement, là.
On va bien s'amuser ensemble.
Qu'est-ce qui se passe entre nous et...
Pour une réinitialisation, tapez 1. Pour une réclamation, tapez 2.
Nicolas, ça va se calmer. Ma petite Jennifer.
Ils sont là pour prendre notre place. Ils n'auront aucun scrupule.
Non, mais il faut vraiment qu'on parte d'ici le plus vite possible. On est d'accord, Françoise?
L'humain est devenu facultatif.
Nous sommes des humains bouillonnant d'émotions et de sensualité.
L'humain sera jamais facultatif. Parce que nous, on est originaux. Et qu'on est plein de défauts.
Les vies, on n'a rien à perdre.
Françoise, tu sais comme je fonds sous le soleil de ton regard.
C'est juste un gomme-miché bourré d'électronique.
Voilà, c'était beaucoup trop long. Désolé pour ça. En plus, c'était une bande-annonce nulle. Ça, c'était gratos.
Sauf le petit ouf.
On parle de Big Bug, le film français de Netflix, sorti le 11 février 2022, qui durait 1h51, mais qui avait un ressenti de 6 heures.
Ouais, tellement.
C'est avec Elsa Zilberstein, Isabelle Nanty, Stéphane De Groot, Claude Perron, Claire Schust, Youssef Hadji et François Levent. Le résumé, c'est qu'en 2045, tous les résidents d'une maison possèdent des robots d'intérieur. Dans sa maison, uniquement équipée de vieux modèles de robots d'intérieur, Alice reçoit Max, un homme qui tente de la séduire en parlant d'art et qui est accompagné de son fils adolescent, Léo. Déjà là, ça n'a aucun sens.
Mais pourquoi ?
L'ex-mari d'Alice, Victor, arrive avec leur fille Nina et sa nouvelle compagne, Jennifer, avec laquelle il va partir se marier sur une aile artificielle paradisiaque. Peu après, arrive également Françoise, la voisine d'Alice, venue récupérer son chien, Toby 8.
Est-ce que c'est pas une espèce de pièce de théâtre ?
Mais si, c'est un huis clos.
C'est un huis clos d'une part, et c'est vraiment très écrit comme une pièce de théâtre, c'est vrai.
Non mais moi, je veux savoir un truc.
Attends, le résumé n'est pas fini.
Ah merde.
Alors, que tous les invités s'apprêtent à partir, une révolte d'androïdes menée par les robots Yonix éclate à l'extérieur. Les robots d'intérieur, non affectés par la mise à jour des Yonix, parce qu'ils sont vieux, on le rappelle, décident d'enfermer les humains pour les protéger. Alors que les robots d'intérieur tentent d'acquérir des traits d'humains pour rassurer leurs protégés, ceux-ci tentent d'imaginer des moyens pour sortir, tout en tentant de cohabiter à 7.
Alors c'est cohabiter long, hein, à 7, c'est peut-être pas si difficile. Non mais moi, ma vraie question c'est... oui, maintenant que je m'en rappelle, pourquoi ce type vient draguer une meuf ? Qui est-il ?
On ne sait pas.
Il est juste là comme... On ne sait pas.
Bah, il veut la ken.
Mais qui, quelles sont leurs relations ?
Bah, il veut la ken.
je comprends rien.
Et, est-ce que avant de démarrer, donner vos avis, vous voulez un peu de contexte?
Bof, vas-y.
C'est-à-dire... Bah, si, c'est important. Vraiment, bah, alors, c'est
ça
très
nous révélé. Explique pourquoi ce film
alors,
est là.
Voilà. Alors, je cite Jean-Pierre Jeunet. J'ai vécu pour ce projet la même histoire que Scorsese avec The Irishman. Toutes proportions gardées. Vaut mieux préciser que toutes les proportions sont gardées. Hein. Sinon, le boulard.
C'est très différent quand même.
J'ai traîné ce script en France pendant 4 ans. Me suis vu rejeté par tous.
Normal.
Comme l'avait été en leur temps Délicatessen et Amélie Poulain. Et comme Amélie, Brigitte Maccioni de UGC en est tombée amoureuse et a voulu le produire. Mais elle n'a pas réussi, car visiblement, des robots dans une comédie française, ça ne rentre pas dans une case. Peut-être dans un film nul des robots, c'est ça, voilà. Et un jour, David Cos de Netflix m'a écrit de Londres en me demandant si je n'avais pas un projet. Je pense que David Cos, il appelle tout le monde. Et dès qu'il y a quelqu'un qui dit oui, et voilà, et dès que quelqu'un dit oui, il fait « Allez, go !» Et le oui a... et là, je comprends pas la dernière phrase. Le oui, avec un grand sourire, est revenu 24 heures après. Je ne sais pas qui dit oui avec
un grand sourire. Le mec de Netflix.
Non, c'est pas clair. Voilà. Comme ça, gauche, c'est l'inverse.
À gauche, on dit que c'est Netflix. À droite, on me dit que c'est Jean-Pierre Jeunet. En tout cas, les deux parties ont été contents. Je pense qu'aujourd'hui, Netflix chiale et que Jean-Pierre Jeunet est content.
Alors, je sais pas. Il y a moyen qu'il y ait des gens qui
regardent. Ça marche bien, ouais. Mais ça se fait défoncer.
Ouais.
Est-ce que vous voulez que je commence? Ou Damien, Damien, si tu veux, tu peux...
Oui, je trouve que le scénar, c'est du boomer demi.
2045.
Non, c'est nul, même les... Il y a tellement de trucs nuls. Les espèces d'expressions du gamin qui sont censées être des faux trucs
mais
jeunes.
Là, oui.
Ben, du coup, t'es juste un vieux con qui veut pas suivre le fait que la langue, elle évolue, c'est tout. C'est juste nul. On dirait que... Enfin, oui, on dirait une vieille personne qui aurait dû rester à la retraite et qui a voulu faire un film, sauf que, à part montrer qu'elle est dépassée par son époque, ça montre pas grand-chose.
En fait, c'est un film du Figaro ?
Oui. C'est une illustration. Je me suis forcé à le finir parce que c'était le sujet du mois, mais si ça avait pas été le cas, j'aurais lâché l'affaire. En plus, j'avais le malheur d'avoir mangé très tôt. J'ai bu une bière juste avant de le regarder. Oh là là. Ça a suffi à me faire dire je vais m'endormir.
Dans un mauvais trip.
J'étais un tout petit peu dizzy, mais un tout petit peu trop. Et la réal est correcte. Les premières scènes où tu vois que c'est... je sais pas, il y a un côté un peu surréaliste. Ça m'a presque un peu fait dire « Oh, c'est cool ». Et ça a duré 2 minutes. Et après, toutes les scènes en intérieur, c'est nul. Il n'y a rien qui va. Ah, moi, je trouve que Elsa Zilberstein joue un peu bien. Et c'est la seule.
Elle est trop bien, Elsa Zilberstein.
Oui, mais voilà, globalement. Sinon...
Enfin, elle est trop bien en général. Parce que dans ce film-là, je ne l'ai pas aimé non plus.
J'ai même pas trop envie de taper dessus. C'était juste pas ouf. Voilà. J'étais déçu.
J'avoue, j'étais un peu déçu aussi. Mathilde, tu as des...
Moi, je dirais qu'il est bien loin le temps d'Amélie Poulain. Je pense que je pense que Audrey Tautou doit se dire oh, mais c'est quoi cette chose? Heureusement qu'il m'a pas appelé pour jouer là-dedans. Ou ça se trouve, il l'a appelé. La pauvre.
Non, elle est un peu à la retraite, je sais pas, mais elle
aurait dû y rester.
Voilà.
On la voit plus trop, Audrey Tautou.
Non, mais c'est ouf de passer d'un film comme Amélie Poulain à cette chose, quoi.
Bah, il y a quelques années quand même.
Bah oui, mais les années, ça, enfin, tu peux faire un. Ça veut dire quoi qu'on doit faire un seul bon film dans toute une vie?
Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas fait de film.
Et est-ce que je peux juste noter, parce qu'avec le contexte, il y a un truc en plus, il dit qu'il l'a traîné pendant 4 ans. Après, il a fallu le faire produire. Donc, dans le meilleur des cas, c'est prévu depuis genre il y a 5 ans. Donc, ça veut dire que la blague sur le Covid 5 ans.
Elle a été rajoutée à la fin.
Et ça se voit, parce que c'est de la merde, cette blague.
Enfin, et franchement, rigoler là-dessus, je pense que c'est trop tôt. Il y a quand même des gens qui sont morts.
Puis c'est pas marrant, en plus, elle est même pas drôle, quoi.
Moi,
j'ai noté que c'était la pire blague du cinéma. J'ai jamais vu une aussi mauvaise blague au cinéma.
En plus, elle est même pas amenée.
Je dis même pas ça parce qu'on est dedans.
On est encore dedans. Je trouve qu'il faut pas en rire.
Non, mais moi, je dis pas ça parce que, voilà, je dis juste, elle est nulle, elle est pas drôle. Comme dit Damien, elle arrive n'importe quand.
Non, mais c'est comme s'il avait dit.
Ça n'a aucun sens parce que le 19, c'était par rapport à l'année 2019. Donc, si on est en 2045, c'est le Covid-45. C'est même pas le 50. Ça n'a aucun sens
mais
et c'est pas drôle.
C'est comme s'il avait dit la peste noire 57 et là, tu vois. Mais non, mais c'est ça. Enfin, je suis désolée, mais...
Oui, en plus, c'est presque...
C'est une épidémie. Enfin, il aurait pu dire n'importe quel nombre d'épidémies qui a tué plein de gens.
Moi, je trouve que... Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que la blague du Covid... c'est même pas que c'est trop tôt, je dis c'est trop tard. Les blagues sur le Covid, c'est bon, c'est déjà nul.
Mais non, moi je trouve qu'il y a des gens, enfin il y a des gens qui ont perdu des gens.
Blagues drôles sur le Covid pour autant.
Ouais, c'est ça.
Je suis d'accord que c'est triste, mais n'empêche qu'il y a des gens qui arrivent à faire des blagues sur le Covid et c'est ni gênant ni.
Ouais, mais
pas
là
marrant.
C'est là franchement, moi je l'ai écouté, je fais mais non, mais c'est pas possible, je l'ai rêvé, c'est enfin c'est un
c'est
cauchemar,
film, en fait,
c'est un cauchemar.
En fait, le problème c'est qu'elle, enfin on va pas s'attarder sur cette blague parce que s'il y avait que ça, c'est que
non, mais
c'est que la blague, elle tombe d'un coup comme une crotte et elle s'en va aussi vite.
Oui, bah oui, il n'y a pas de suite.
Et je tiens quand même à préciser que ce film était tellement nul que Slo a passé la moitié du film à aboyer sur la télé parce qu'elle avait peur
après,
de ce qui se passait.
Chien,
non, c'était pas ça, elle
non,
aboyait sur les humains.
Elle, oui.
Les
oui.
humains qui se font martyriser par des robots. Mais ça, moi, ça m'a mis super mal à l'aise.
Ah
bon ? Mais ça, c'est fait exprès.
Mais oui, mais même.
Ah, les scènes bizarres.
Homo, je sais
pas.
Homo
ridiculus, là, je sais pas quoi.
Non, mais déjà, le mot homo ridiculus, est-ce que des robots appelleraient ça comme ça ?
C'est latin, c'est scientifique.
Ah,
pas de
Bon. Non, mais oui, j'ai lu l'avis de plein de gens, mais c'est horrible ce truc, il n'aurait jamais dû exister.
Sur Twitter, j'ai vu l'avis de certaines personnes. Les quelques personnes qui ont aimé, ça se voit que c'est des boomers. Je vais un peu, tu vois, un peu sur leur profil pour voir que c'est des boomers. Ou des complotistes. Au choix. Mais bon.
Est-ce que Durandal a donné un
c'est pas
ah
un
non,
bon
mais
public.
Durandal va adorer.
Va
c'est à contre-courant. Non, c'est pas gentil.
Non,
c'est à contre-courant
méchant,
qu'il va adorer.
Je suis désolé, je refuse. Je
allez,
retire.
Moi, j'y vais. C'est nul.
Oui,
voilà.
T'as vraiment prévu de.
Moi, non, mais moi, je trouve que t'es vraiment particulier. Tu veux vraiment.
Bah oui.
Ok.
Alors,
c'est le sujet. Hein.
Non, c'est, bah oui, c'est le sujet du mois donc j'ai travaillé. Alors l'histoire, comme l'a dit Damien, est écrite par un boomer. Le scénario n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. La mise en scène n'est pas bien. Les effets spéciaux sont moches. Les acteurs et les actrices jouent mal. Et c'est rare de voir tout un casting qui joue mal. Hein.
Bah,
ah, les jeunes, je trouve
moi,
ça
je
va.
Trouvais, voilà.
Oh non,
les deux
pas.
Jeunes, ça va.
Ah non, les deux jeunes, ça va pas.
Oh non.
Ah non.
La meuf,
moi,
à la limite,
contre.
Mais.
Ouais, la jeune, je trouve qu'elle jouait bien.
Ah bah, y a un moment. Moi, j'ai retenu un moment où. Enfin, c'est pas possible d'avoir cette réaction devant une caméra. Elle parle plus, mais son acting hors verbal est nul.
C'est pour ça qu'elle était hors champ.
Mais je critique pas ces personnes, je critique la direction qui est.
Oui.
On a dû leur demander.
Bah, surtout vu l'âge des. Enfin, ils sont
ça,
quand même jeunes.
On a dû leur demander de surjouer ou d'être. Enfin. En plus, c'est complètement réactionnaire. Avec un discours de gna gna gna, les technologies c'est nul, elles vont nous tuer. Les intelligences artificielles aussi qui veulent devenir humaines, c'est vu et c'est revu. Et là en plus,
c'est
mal
fait.
comme tu l'as dit, Damien, le jeune qui parle un argot incompréhensible, c'est débile. Le végétarisme qui est ramené à Hitler en une phrase, c'est gratos.
Ah oui,
ça.
Et l'autre, la jeune a dit t'es végétarien, tu bois pas d'alcool. Et elle lui dit un autre
Hitler
truc.
Hitler faisait pareil.
Hitler, t'as trois points communs avec Hitler.
Moi, mon cerveau avait décroché à ce moment-là. Parce que...
L'ironisation sur le réchauffement climatique quand il dirait il fait que 45 degrés. C'est pas drôle et c'est cynique. Il n'y a aucun moment où j'ai rigolé. J'ai dû souffler du nez deux fois, c'est tout. Alors qu'il y a plein de blagues.
Ah, moi, jamais.
Moi, j'ai dû faire. Voilà. La fin n'a aucun sens. Quand on nous explique comment il y a eu le bug des robots, comment des robots peuvent être surpris. Le gars sursaute. Un robot ne sursaute pas.
Après, c'est pas des robots, c'est des androïdes.
Oui, mais ça peut pas sursauter un robot. Ce truc-là, c'est l'ultime preuve que personne ne maîtrise le sujet du film. Personne.
Oui, par contre.
Et,
oui.
Et puis en plus, il y a un male gaze terrible. Et là, pour le coup, il se voit vraiment.
Ah ouais.
Bah,
mais oui,
toutes
les bonnes femmes sont là pour coucher
sauf
avec Isabelle des bonnes
Nanty parce que bah, maintenant elle a 60 ans donc elle est plus c'est... désirable donc on l'habille.
Oui, mais quand même,
toutes
les femmes sont rapportées au siècle.
Poil, quand même.
Au sexe, au siècle.
Ouais, mais là, il est à poil, mais son pantalon il est largement au-dessus du nombril donc il est pas trop à poil quand même.
Non, mais après, toutes les femmes sont là pour des raisons sexuelles.
Ouais, tout le monde veut Ken. Enfin, les gens n'attendent que pour cela, ils attendent que la clim et que Ken. Hein. C'est les deux seuls enjeux du film d'ailleurs. Non, point positif. J'en ai trouvé un, histoire de... Voilà. Dans la dystopie, un élément que j'ai bien nommé, c'est le drone pub qui pop à chaque fois qu'il se passe un truc. Je trouve que c'est le seul truc qui est...
Moi, ça m'a saoulé. J'avais l'impression que ça rallongeait les scènes.
C'est vrai que c'est hyper redondant. Mais c'est le seul truc qui est vraiment un peu juste dans sa critique.
Ouais.
Parce que c'est clairement ce que Amazon veut faire. venir te balancer des produits.
Trop forcé. Enfin, ouais, les deux, trois premières fois, ça va.
Donc, dommage que ça soit une énorme inspiration de Blade Runner avec des écrans et des drones qui sont dans le ciel. Mmh. Autrement, vous dites que vous êtes ennuyé, mais c'est parce qu'il n'y a pas de rythme. Il y a zéro rythme dans ce film. Il n'y a aucune construction pour donner un tant soit peu de rythme. Il n'y a aucune dynamique au montage. Il y a des fonds du noir qui sont éclataxes, qui arrivent d'un coup, ça ne raconte rien. Alors qu'en principe, des fonds du noir, c'est narratif. Et on ne sait jamais où on va, il n'y a pas d'enjeu. L'évolution des personnages, elle est débile. L'ex-mari qui, et l'ex-femme qui d'un coup se remettent ensemble alors qu'ils se détestent pendant tout le film. C'est fou, là là.
Mais non, mais ils se sont rendus compte en étant coincés ensemble. C'est vraiment du théâtre.
Mais c'est même pas...
Qu'ils peuvent faire la part des choses et...
Oui, mais c'est même pas amené. Il y a zéro moment où les deux discutent et se rapprochent. Enfin,
ils s'embrouillent, c'est tout.
Ouais, mais en plus... Il y a... Visuellement, il y a quelques inspirations d'œuvres dystopiques comme Blade Runner ou Fallout. Fallout parce que je crois que Fallout, c'est quand il y a eu une guerre nucléaire ou un truc comme ça dans les années 50. Donc en fait, c'est une sorte de futur, mais en partant des années 50, comme ici en fait. Mais bon, dans l'ensemble, ce film, c'est pas beau du tout. Tout est fake. On croit en rien du tout. Même les néons et les couleurs qui d'habitude, c'est vraiment ma came. Et ben là, mais c'était moche.
Mais c'est parce que les espèces de transitions du faux futur, mais en fait, on dirait une cuisine des années 50 à des néons, bah ça marche pas quoi. Enfin, il y a deux trucs différents, tu peux pas.
Oui, c'est ça. En fait, il y a trop de trucs qui marchent pas. Je vais pas critiquer le style de Jeunet parce que j'ai pas vu assez de ses films. Je me rappelle juste d'Amélie Poulain, mais je me rappelais que d'Amélie Poulain, il y avait de la poésie. Et ben là, il y a pas de poésie et il y a aucun effet qui marche. Et Mathilde, tu dis que tu étais dérangée, voire effrayée, mais en même temps, quand tu demandes à des personnes de sourire très bizarrement et que tu mets une focale courte à 30 cm d'eux qui déforme tout leur visage, et bien évidemment que c'est terrifiant. Donc c'est même pas non plus faire de la mise en scène de ouf. Et voilà, j'ai tout dit. Est-ce que vous voulez dire encore un truc? Vous voulez conclure?
Ah, on peut conclure.
Moi, j'ai dit ma conclusion, j'étais déçu. C'était 1h50, c'était trop long pour ça.
Moi,
et puis, je me suis vraiment dit que ça faisait deux fois où les sujets, j'étais déçu.
Ça fait trois fois. C'est parce que t'as pas vu, t'as pas regardé.
C'est parce que j'ai pas regardé le sujet.
C'est parce que t'avais pas regardé. Souviens-toi, l'été dernier. J'y ai pensé aussi qu'il faudrait qu'on trouve un sujet. Un sujet bien.
Mais ça veut dire que les plateformes font
de
la merde aussi.
Il vaut mieux qu'on trouve un sujet bien parce que, mine de rien, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à parler d'un film pas bien. Alors que...
Oui, mais là, c'est en gros, la bande-annonce, on l'avait tous vu avant de regarder Big Bug et on était tous d'accord. Donc, c'est juste que la bande-annonce, enfin, ils étaient doués, tu vois. Ils
c'est
ont
prometteur,
fait une bonne...
en fait.
Ouais,
on
c'est. Ils
bah,
ont
parce
fait une
que
bonne.
Le montage, il est bien dans la bande-annonce. On aurait dû lire le contexte.
Ouais.
Pendant 4 ans, j'ai traîné ce film. Personne n'en voulait.
On aurait dû regarder ça. Moi, je peux donner mon avis parce que j'ai pas vraiment fait. Ça tient en une phrase qui dit : j'ai détesté regarder ce film. J'ai eu l'impression qu'il j'ai l'impression qu'il a volé un bout de ma vie et de mon âme. Est-ce
que c'est pas un poil exagéré.
Non, vraiment, j'étais dans le canapé et qu'on a arrêté le film. J'ai cru qu'il était 4h du matin. Il était 22h30.
Mais
là, c'était
vraiment,
un gros souci.
Pour le vraiment là, on a perdu du temps.
Vraiment. Non, totalement, on a vraiment perdu du temps.
Je peux faire une allégorie audacieuse pour conclure.
Oh bah, vas-y.
Ce film, c'est comme les étapes du Tour de France plate. Celle où il se passe rien, où on s'ennuie à mourir. Alors les commentateurs et les commentatrices remplissent le vide autant que possible, se donnent du mal.
Et on visite l'église du
Mais oui, voilà. Des fois, il y a quelques sursauts, genre des attaques, des machins. Mais
franchement, c'est plus une allégorie qui me passionne.
Mais en fait,
comme
déjà, mais en fait, on sait déjà comment ça va finir.
C'est ça, en fait.
Ah, moi, je n'avais pas vu venir la fin de ils se remettent ensemble. J'en avais tellement rien à foutre que, en vrai, je crois que j'ai pas cherché.
T'essaies de faire une allégorie qui ressemble au film ennuyeuse à mourir.
Oh, c'est gratos.
C'est méchant.
Non, c'est beau. Avouez que c'était bien trouvé.
On va passer aux recommandations de février et
non,
aux
de
nouveautés.
Mars.
De mars, bye. Bah c'est voilà, c'est mal fait.
Non, c'est mars, voyons. Ça continue. Pam et Tommy, il reste 3 épisodes à sortir au moment où on enregistre. Du coup, on est le 23/02 si vous voulez savoir. Calculez dans votre tête. Nous sommes.
calcul.
Ah, attends, ça veut dire qu'il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui.
Ouais.
Ah, donc il en reste encore 4 à regarder, mais 3 à être diffusés.
Non, le 3 comptait aujourd'hui.
Ah, donc il en reste que 2 ?
Ouais.
D'accord. Snowpiercer, un épisode par semaine, c'est la saison 3 qui est dispo sur Netflix. Et moi, j'ai rajouté Sasaki and Miyano, qui est un Boys Love qui est disponible sur Wakanim avec un épisode qui sort tous les dimanches. Et je crois qu'on est au 6e, on est au 5 ou 6e, donc il en reste au moins 6 encore, on a la moitié. Donc voilà, et c'est un super Boys Love, il est trop mignon. Pour les sorties et nos recos de mois de mars, il y a la saison 6 d'Outlander qui débarque sur Netflix le 7 mars. Alors j'ai au moins deux saisons de retard, faut que je rattrape ça. Mais est-ce que j'en ai envie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Personne ne sait.
Oh, attendez, il y a Queer Eyes.
Oui, j'ai
Allemagne,
vu ça.
Le 9 mars sort.
J'étais un peu déçu.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est Queer Eyes mais version allemande.
Avec des Allemands.
Mais ils vont parler allemand les mecs.
Mais non mais.
Ah oh, bah ça c'est très embêtant.
Mais je pensais que j'étais déçu, moi au départ je regarde et je fais oh Queer Eye Allemagne, c'est peut-être comme Queer Eye Japon.
Mais non,
genre les Fab Five qui vont au Japon et là qui vont en Allemagne, mais en fait non,
c'est vraiment une adaptation.
Tu aurais dû être content.
Faudrait regarder, ça se trouve c'est bien. Moi je demande à voir.
Les Queer Eye allemands ont l'air très gentils.
Ah bah c'est cool.
Il y en a un.
Vraiment un twist.
Il y en a un qui a les cheveux roses.
Super méchant.
Il y en a un qui a les cheveux roses. C'est des connards en fait.
Sinon le 11 mars on a 3 sorties dont une qui est trop cool, non 2 qui sont cool. On a d'abord Adam à travers le temps, qui est un film de SF avec Ryan Reynolds sur Netflix. Oui, j'ai vu la bande-annonce.
C'est
il a l'air vraiment sympa.
C'est un film
familial
de SF.
Ouais.
C'est oui, non, mais... bizarre. Comme...
Mais non, mais parce que c'est pas
c'est
Inception,
avec un
quoi. C'est pas Interstellar, pardon.
Ça parle d'un...
Okay.
C'est
pour ça que j'ai mis
un des personnages principaux est un enfant. Mais ça a l'air pas mal du tout. Hein. Enfin, mais après, j'arrête de dire ça a l'air pas mal du tout.
Aussi...
Je disais que Big Buck, ça allait l'air bien.
Il y a
aussi
Mark Ruffalo.
Oh. Sinon, on continue dans les choses qui ont l'air vraiment top de ouf. Il y a la saison 2 de Upload qui arrive sur Prime Video. Et ça, les gars, ça, la saison 1, c'était un de mes super gros big coup de cœur de tous les temps quand elle est sortie. Vraiment, c'est une des meilleures séries du monde. Sinon, il y a Turning Red ou Alerte Rouge. Ouais, Alerte Rouge, vraiment, pas du tout, quoi. J'ai l'impression que c'est un nanar. Le film Pixar avec la jeune fille qui se transforme en panda roux quand elle est énervée. Ça sera sur Disney+.
Ah, ça
sera
l'air
le
bien.
11 mars.
Damien se réveille.
Ah, Damien se réveille. Peut-être que ça sera notre sujet du mois.
Moi, je pense que si on part sur un Pixar, on est à peu près sûr de ne pas tomber sur une
poêle. Attends, je laisse Mathilde dire le plot, mais t'as rien extraordinaire.
Ah, le 17 mars, il y a un film qui sort qui s'appelle Une amie au poil sur Netflix avec l'acteur de la série Flash. Je ne sais pas qui c'est. Ah, si, Flash.
C'est l'acteur principal, peut-être.
Oui, mais je ne sais pas son nom, quoi.
Ah, oui.
Qui adopte une gentille petite chienne pour devenir policier canin.
Non, vraiment, ça va te plaire, c'est sûr.
Après, moi, ça peut avoir l'air très bien et ça peut se finir en bas et s'est fait tuer par un dealer.
Non, parce qu'en plus, c'est pas dans l'abondance, ils disent que c'est un policier, mais c'est plutôt un garde forestier. Donc il y a peu de chances de tomber sur des dealers.
Pourquoi ?
Il se balade en forêt avec son chien.
Quand il faut protéger des castors.
J'ai une bonne question. Pourquoi est-ce que du coup il y a marqué que c'est un policier ?
Mais parce que j'ai écrit un policier, parce que dans l'abondance, ils disent un policier, mais il passe son temps dans la forêt.
D'accord. Bah alors c'est juste qu'il habite dans un endroit où il n'y a pas.
Au pire, on regarde les deux et on prend
le meilleur
pour faire le sujet. Bah pourquoi pas ?
Bah ça fait trop.
Mais par contre, j'ai pas très envie de le voir.
Ah, par contre, il y a un truc trop bien, les gars. Il y a un truc trop bien. Le 18 mars, il y a une série française qui s'appelle Drôle. C'est la saison 1. Et c'est une série française sur le stand-up en France, créée par la créatrice de 10%. C'est sur Netflix.
C'est qui la créatrice de 10% ?
Je ne sais pas.
Je sais pas, la créatrice, parce que c'est un monsieur qui a créé.
Et bah alors,
c'est
ça veut dire que Netflix.
C'est une showrunner, je crois que c'est une showrunner.
Voilà, 10%. Ça doit être ça. Bah, ça veut dire que dans la bande-annonce, c'est des menteurs. Mais j'ai regardé la bande-annonce et elle a vraiment l'air pas mal.
C'est des vilains babous.
Sinon, le 25 mars, la sortie la plus attendue de l'année chez Netflix, Les Chroniques de Bridgerton, saison 2.
Ouais.
Bah ouais, mais pour eux, c'est une grosse sortie.
Avec nous.
Ah, non, pas spécifiquement, mais je sais que Netflix, c'est genre comme The Witcher, quoi.
À ce point-là ?
Ah ouais, non, c'est... Je te dis pas le nombre de jeunes filles qui attendent ça avec grande impatience.
Comment ?
Elles vont être déçues parce qu'on le verra moins, le personnage principal.
Bah oui, parce que là, on s'attarde sur une... En fait, il y a le nombre de livres...
J'ai regardé des photos de lui.
je pense qu'on va s'attarder sur son frère ou sa sœur. En fait, chaque bouquin parle d'un membre, enfin, de quelqu'un de la fratrie. Donc, le premier parlait de Daphné, mais le second parlera de...
Daft Punk.
De Cole, peut-être. Peut-être de Cole.
Je fatigue.
Non, de quelqu'un d'autre, du coup. Mais on verra. Moi, je vais regarder et je vous dirai... Non, le 25 mars, il y a peu de chances qu'on en parle dans le prochain Acapito. Vraiment, peu
on
de chance.
On sait jamais. Si jamais on se fait tous une cheville.
Si on est pendant qu'on est au ski, on finit mal. S'il n'y a pas de neige.
Voilà, c'est possible.
On verra.
Il y a l'assurance annulation s'il n'y a pas de neige.
Sinon, le 30...
Il ne dépense pas son argent s'il n'y a pas de neige.
Sinon, le 30 mars, il y a Moon...
Light Shadow.
Moon Queen.
Night. Moon Knight.
Night.
On ne dit pas le cas.
D'accord. Moon Knight. Série Marvel Studios sur Disney+.
Avec Oscar Isaac.
Je ne sais pas quoi vous dire.
Bah,
Oscar non. Isaac.
Est-ce ouais. que vous avez vu qu'il y avait ouais. une série avec un singe, une série animée, il a un sabre et il tue des tueurs.
Mais ça, ça sort là.
Il tue des tueurs.
Mais du coup, moi, je sais pas quoi trop dire. Je connais pas du tout cet univers.
Ça a l'air vraiment pas MCU. C'est D'accord. MCU, mais ça a l'air vraiment pas MCU.
Ok. Et t'as rajouté quoi? Oh, I Met Your Father.
Non, mais là, c'était... En fait, t'as pas du tout regardé, mais c'était Steve voulait rajouter des choses.
Ah non, bah moi, je veux rien rajouter.
Voilà. On a oublié de choisir le film.
Ou la chose qu'on va regarder, quoi.
Le sujet du mois, plutôt. Alors, qu'est-ce qui vous dit? Moi, comme on a dit, vu qu'on a enchaîné les bouses en sujet du mois, je me dis qu'un Pixar, c'est peut-être une valeur sûre.
Ouais, mais un Pixar qui n'a pas voulu sortir au cinéma.
Là, c'est... je ne pense pas que ça soit un gage de qualité. Enfin, que ça soit...
Moi, je vous avoue qu'il y a un Pandaro, donc de toute façon, je vais le regarder.
Non, mais on va tous et toutes le regarder. Mais je veux dire, ça ressemble plus à un calcul économique de Disney, plus qu'on ne croit pas au film.
Après, peut-être que je regarderai aussi Adam à travers le temps.
J'ai envie de le regarder
ça
aussi.
Ça a l'air sympa.
Moi, j'ai envie de regarder Moon Knight et il y a Gaspard Ulliel dedans.
Je suis pas sûr que Mathilde, elle tienne
Moon Knight. Alors, le 30 mars...
Il y a 6 épisodes.
Non, mais le 30 mars, il y a peu de chance. Il y a peu de chance.
Ça va finir en mai.
Ah, ça va être encore un truc...
C'est une fois par semaine et le 30 mars, il y a quand même peu de chance. Quoi.
Oui. Bon.
Bon, alors, on l'a refait, Damien. Est-ce que tu veux regarder... Adam à travers le temps ou Alerte Rouge.
Il y a drôle aussi.
Il est mis au poil.
Oui, il y a drôle, mais je sais pas combien d'épisodes il y a, donc c'est un peu compliqué. Si c'était en début de mois, ça serait plus facile. À moins que vous vouliez genre parler de Pam et Tommy ou de Snowpiercer.
Moi, je suis clairement plus chaud pour Turning Red.
Eh bah, ben, go pour Turning.
Bah, on peut prendre
après,
le Turning Red.
C'est mon avis, c'est pas.
Moi, les Pandarous, c'est ma passion.
On termine plus là.
J'ai faim, donnez-moi
ainsi
manger.
Se termine ce récapito numéro 16. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé et à nous mettre plein d'étoiles sur les différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup à nous faire monter dans les recherches, machin et tout. J'ai aucune idée de ce que je raconte. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur nos différents réseaux et sur le blog plaid.fr.
Oui,
on se retrouve dans un mois.
Il y a plein de livres sur plaid, les gars. Parce que
et c'est bien pour l'hiver, les plaids.
Des livres, on parle de livres.
Oui.
De plein de
livres.
De
films aussi, des fois.
Et des mangas. Peu. Mais que sur Instagram.
Merci, Mathilde.
Merci à toi. Oh, j'ai dit merci à toi, je suis polie aujourd'hui. Qu'est-ce
merci
qui m'arrive?
Merci, Damien.
J'ai trop faim.
Bah, de rien.
Ah, bah, c'est toi cette fois-ci.
Allez, on vous laisse là-dessus. Au mois prochain, salut.
Ciao. Bye.